Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va à Réu ? Alors de quoi on va parler dans cette réunion ? J'avais envie de discuter d'un truc qui nous réunit tous en tant qu'êtres humains, en tant que personnes. Bon, on a déjà fait les films de requins, donc je me suis dit qu'il restait pas grand-chose. Il reste l'humour de merde, il reste le coussin Nicolas Cage dans le studio, il reste ce qu'on pense de l'humanité depuis qu'on gère les commentaires sur écran large, mais je pense avoir trouvé mieux. Je pense avoir trouvé le truc qui nous réunit le plus, c'est les dinosaures.
Oui.
Applaudissements s'il vous plaît, Déborah et Mathieu. On est d'accord que vous êtes passionnés par ça, Déborah ?
Oui. Depuis que je suis toute gamine, je dis pas que je suis un peu comme Mathieu, genre la geek des dinos qui connaît toutes les espèces et tout, mais la simple évocation d'un dinosaure, pour moi c'est l'argument marketing et commercial ultime.
Mais c'est quoi ton plus vieux souvenir de dinosaure ?
Mon tout premier souvenir de cinéma, qui est Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, je m'épancherai longuement après dessus, mais j'expliquerai pourquoi pour moi c'est le film parfait et pourquoi ce film a fait de moi une cinéphile.
C'est le premier film que t'as vu au cinéma ?
Non, je l'ai pas vu au cinéma. Je me rappelle parfaitement que j'avais la VHS. Je sais pas exactement quand je l'ai regardé pour la première fois, mais j'ai ce souvenir de moi dans mon lit en hauteur après avoir mis la cassette dans le magnétoscope. Et à chaque fois, j'étais absorbée par le film. C'est vraiment comme si le temps s'arrêtait. Je ne bougeais plus. J'étais une image. J'étais captivée devant le film. Je ressentais toutes les émotions du monde qu'un film pouvait faire parcourir. Enfin, c'était vraiment quelque chose de super fort, ce film, pour moi. Et après, évidemment, il y a eu la Dinomania. Rattraper Jurassic Park et tout ça, et là ça a été la révélation, genre ok, les monstres c'est trop cool, mais les dinos c'est les plus cool des monstres.
Et toi, toi dinosaure, et toi Mathieu, donc t'es le guide des
dinosaures. Man.
Non, c'est une fake news. Non, mais j'aime bien un peu de rigueur scientifique de temps en temps quand même.
Wow,
mais je pense cool. Que bon, c'est pas très original d'avoir grandi fin des années 90, début des années 2000 et être accro aux dinosaures quand t'étais gosse. Hein, c'était le cas dans mon 80% de la population, je pense. Mais je pense qu'il y a un peu deux types de gens. T'as les gens qui sont partis de Jurassic Park. Et t'as les gens qui sont partis comme moi, des fascicules de découverte de dinosaures avec
l'imagerie.
Les listes.
L'imagerie.
Mais tu sais, moi, c'est plutôt les magazines, papier très fin, avec des couleurs et tout. Et le truc ultime, la page en 3D avec les lunettes en carton. Vraiment le truc. Et après, à l'époque, j'étais pas capable de dire que c'était de là que ça venait. Mais tout ce qui est post-Jurassic Park, ça a évidemment nourri mon envie du cinéma grand public. Notamment un truc qui s'appelle Safari Préhistorique. Dont on reparlera,
ah oui,
je pense.
J'ai fait un article dessus,
toute nostalgie et plein d'autres choses. Dès qu'il y avait des dinosaures, j'adorais le film d'animation. Puis bon, Jurassic Park, évidemment. Et la méga hot take, quand j'étais gosse, j'ai préféré le 2 au premier. Voilà.
Et tu l'as vu lequel en premier ?
Je sais plus, c'est, je les ai vus très tôt et c'est un magma dans ma tête. Et je retenais des films plus des scènes que les films en eux-mêmes. Et je me rappelais surtout de la partie un peu violente du 2, quoi. Le T-Rex qui est dans la cascade. Évidemment, la scène avec le bébé T-Rex à la caravane qui m'a complètement traumatisé. Donc, plus que le premier où je me rappelle surtout de la scène sous la pluie du début, ce genre de choses. Mais je pense que j'étais moins capable d'avoir le côté un peu émerveillement que t'as du premier, voilà.
Attends, moi, je me rappelle...
mais j'adorais quand même, hein, bien sûr. Mais...
Je me rappelle que Jurassic Park 2, la scène d'intro, je l'avais pas compris. Et en fait, je ne comprenais pas que cette gamine se faisait complètement bouffer par toutes les petites bestioles. Pour moi, c'était un truc trop mignon où d'un coup, elle découvrait un petit dinosaure. Puis d'un coup, elle en voyait plein. Et elle disait, oh non, j'ai pas assez pour vous donner à manger
attends,
à tous.
Je comprends pas le plan sur la mère qui hurle. C'était
mais
pas
j'avais
un indice.
Pas compris. J'avais pas compris. Pour moi, c'était plus, elle avait peur parce qu'elle voyait son enfant dans une situation de danger. Mais j'avais pas compris que si tu la revoyais pas, la gamine, c'est parce qu'elle était plus là, quoi, qu'elle avait été bouffée de partout. Enfin, voilà. Et toi, Geoffrey, tes souvenirs ?
Alors moi, je suis moins dino fan que vous, mais je pense que c'est clairement Jurassic Park. Hein. À mon avis, j'ai vu le troisième au cinéma, les autres, j'étais trop jeune. Et oui, j'étais trop jeune pour aller voir au cinéma. Et le jeu vidéo Dino Crisis, c'est un peu les deux trucs quand j'étais ado. Et moi, j'aime bien les films de dinosaures. Je saute un peu dessus comme vous quand il y a un truc qui arrive, genre la daube 65 avec Adam Driver. Mais... très souvent, je suis un petit peu déçu parce que j'ai l'impression qu'en fait, la promesse du truc de dino est rarement tenue et c'est rarement aussi exaltant que ça avait l'air d'être sur le papier. À la limite, Primal, comme vous m'avez chaudement conseillé, m'a vraiment convaincu et excité, mais c'est même pas juste les dinosaures, c'est un truc au-delà de ça qui m'a excité. Et les suites, Jurassic World, vous aimez ? Enfin, je sais que tout le monde déteste Jurassic World 3, mais les autres, le 1 et le 2.
Non.
Même pas.
Mais en fait, ce qui m'énerve avec... bon, on reviendra plus tard vraiment sur toute la production du truc et pourquoi c'est autant un bordel. Mais c'est vraiment l'idée, il n'y a absolument rien qui est brodé autour. C'est que l'idée, elle est quand même assez géniale de revenir à la réflexion de la commercialisation des dinosaures. Le fait que voilà, on est un public lassé qui en veut toujours plus et tout ça. C'est vraiment quelque chose dans lequel on peut... C'est un discours dans lequel on peut se reconnaître en tant que fan de dino. Et derrière, on ne nous fait strictement rien de ça, à part nous dire, oh, au final, il faudrait peut-être s'émerveiller des T-Rex et pas de l'Indominus Rex, Indominus Indi.
Indominus Rex.
Ah, mais ça, il est pas officiel, il ne me regarde pas.
Ok, donc je peux massacrer le nom, on s'en fout.
Toi, tu détestes moins, non ? T'aimes bien le premier, au moins, Mathieu ?
Moi, j'aime bien les deux premiers, même. Ouais. Je l'assume. Avant, je préférais le premier et moins le deuxième. Et quand on a, avant le 3, on a refait 257 articles sur la saga. Et j'ai revu le 2, que j'ai, je pense... j'ai vraiment réussi à l'apprécier au deuxième visionnage, notamment la première partie qui est vraiment tout ce que j'aime dans le cinéma d'aventure.
Ouais, c'est film catastrophe et dinosaure, c'est les deux trucs qui nous unissent aussi, quoi.
Et même la deuxième que j'avais détestée en salle, en le revoyant, en fait, je trouve ça quand même hyper marrant. Le fait qu'ils reprennent cette idée du vraiment bête, on est d'accord, du dinosaure génétiquement modifié pour faire une sorte d'hybride bizarre de maison hantée et de film de monstre, avec une mise en scène hyper baroque. Enfin, vraiment, ça part dans tous les sens. Franchement, tu t'ennuies pas une seule seconde. C'est le seul qui exploite correctement le plus gros attrait du premier, qui est honteusement sous-exploité, qui est le Mosasaur. Donc, avec une scène d'intro vraiment cool.
Ouais, parce que... Mais j'ai l'impression que, en fait, en y réfléchissant beaucoup, et il y a plein de choses que j'aime bien dans Jurassic Park, Le Monde Perdu, donc le deuxième, il y a des petits morceaux de Jurassic Park 3 que j'aime bien, mais je trouve que plus je le revois, et moins il est bien. Et par contre, j'ai l'impression que Fallen Kingdom, donc Jurassic World 2, c'est un peu la meilleure suite, en fait, de Jurassic Park. Pour moi, c'est celui qui remplit le mieux, la mission de spectacle absolument grotesque et généreux, avec un max de scènes qui fonctionnent très bien, indépendamment les unes des autres. Les personnages, c'est un peu bête, il y a plein de personnages qui savent rien, les méchants sont nuls, mais il y a plein de scènes qui sont quand même extrêmement sensationnelles, et en les revoyant, je me dis, mais quel plaisir absolu, quoi.
Moi, je me fais un peu la même réflexion, mais avec Jurassic Park 3. Au début, j'ai suivi un peu le mouvement du « Oh non, Jurassic Park 3, c'est trop une honte, c'est trop nul et tout, machin. » Et plus je le regarde, plus je me dis « Oui, le film, il a strictement rien à me raconter, et c'est le plus série B de la trilogie. Mais ce film, il m'offre tout ce que je veux quand je vais voir un film de dinosaures, même s'il n'y a pas le côté très méta derrière, il n'y a pas vraiment la réflexion. » Enfin voilà, c'est une série B qui est vachement plus basse du front, mais j'aime beaucoup ce film.
Moi,
il passe à la télé, je le regarde en entier.
Moi, côté spectacle, je suis frustré, notamment plus le film avance et pire c'est, je trouve que la dernière demi-heure, même la scène de la volière qui est censée être super bien, elle est finalement assez courte, et je trouve que notamment les 10-15 dernières minutes, c'est extrêmement nul. Je trouve que vraiment, plus le film avance et moins il y a de sensations et moins il y a d'émerveillement, d'excitation et de générosité. Mais toi, Mathieu, t'aimes beaucoup aussi.
Moi, j'aime beaucoup Jurassic Park 3, qui a une qualité qu'il n'y a pas beaucoup avec ce genre de film aujourd'hui, c'est qu'il dure 91 minutes.
Certes.
Ce qui en fait un vrai ride hyper resserré. Et c'est pas... Bon, on reparlera des multiples problèmes de production de ce film qui... dont la qualité narrative, on va dire, vient aussi de ce problème-là, quoi. Mmh. De
sa mise en chantier. Tout a été bricolé un peu.
Voilà,
dans le moment,
tout a été fabriqué quasiment en direct. Mmh. Notamment des énormes absurdités narratives qui viennent de là. Mais si tu retires ça, ouais, le montage, le premier montage, je crois, faisait moins de 100 minutes. Donc dès le début.
Le premier montage faisait 38 minutes.
Non, mais c'est ça.
Dit, putain, on est dans la
dès
merde.
Dès le début, le truc était hyper resserré, ouais. Et ça a été assumé par Johnson. Et bah, finalement, c'est un peu l'inverse de ce qu'a fait Trevorrow sur World, c'est-à-dire reprendre la métaphore de Spielberg, etc. Mmh. Et moi, je trouve ça assez louable. Le film a des méga défauts, mais moi, oui, je suis moi comme aussi. Toi, il m'amuse bien. Ouais.
Cette mission sauvetage, ouais, voilà, c'est exactement ça. Elle m'amuse. Ouais.
Et à part Jurassic Park et World, c'est quoi un ou deux gros films de dinosaures pour les gens qui connaîtraient rien, qui sont un peu des références incontournables?
Bah, la liste est grande quand même.
Mais juste quelques-uns. Genre. De chacun. Allez-y.
Bah, le film référence, je pense que c'est un petit peu compliqué de répondre à cette question sans revenir sur ceux qu'on a déjà cités, en fait, parce que pour moi, bah, je te cite Jurassic Park 1 et Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles.
Et tu cites pas Tammy et le T-Rex, je comprends pas.
Bon, on peut pas dire tellement que ce soit un classique après.
Bah, défini classique, moi je pense que c'est
bah,
un classique.
En tout cas, si on parle de classique, faut vraiment revenir très très en arrière et décortiquer un peu le sujet, quoi. Mais sinon, bah oui, évidemment, les références, ça reste Spielberg.
Mmh. Moi je trouve ça très étrange de considérer Jurassic Park comme une sorte de début absolu, alors qu'il est dans un prolongement. Enfin, c'est parce que c'était une révolution des effets spéciaux. Mais je veux dire, The Lost World, c'est 1925, quoi, et c'est déjà une révolution à l'époque. King Kong, ça raconte la même chose, et ensuite, il y en a eu un paquet qui racontait la même chose encore et encore et encore. Et la contribution de gens comme O'Brien ou Harryhausen au mythe a quand même fait des films hyper cool. Enfin, moi, je pense que La Vallée de Gwangi, c'est vraiment un film important, même si ça n'a pas marché à l'époque.
Ah, il n'a pas marché à l'époque?
Non, pas trop, non.
Bah, c'est peut-être ça, en fait.
Bah, il n'arrive pas en bout de course, hein, mine de rien.
Ouais. Parce qu'en fait, la seule grosse différence, c'est que Jurassic Park a fait. Plus de 900 millions au box-office et a surexcité les foules, toutes les générations, et donc d'un seul coup, ça a donné l'impression à tout
un
tas de
gens.
Oui,
mais regarde, le premier vrai énorme blockbuster, bon, si tu comptes pas The Lost World à mettre en scène des dinosaures, c'est King Kong, et c'est quand même l'archétype
méga
succès hollywoodien.
Le héros, c'est King Kong.
Ils sont pas au gros centre, mais...
La figure, c'est King Kong, quand même.
Le côté film d'aventure... a quand même vraiment joué en faveur du film, et les dinosaures, ils sont pour quelque chose. Donc,
et en même temps, les dinosaures n'étaient pas dans le remake des années 70, pour te dire à quel point ils sont importants.
C'est pas faux, mais bon, dans le remake des années 70...
De toute façon, des dinosaures qui sont vraiment au centre de l'intrigue, on pourrait citer le monstre des temps perdus, mais sinon, j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu le côté accessoire, genre la toile de fond.
Oui. Ouais.
Ou alors c'est une scène très cool, ils vont se faire plaisir, on va avoir le droit à un combat, mais ce sera jamais la figure ou tout ce que représente et incarne et cristallise le dinosaure qui est vraiment en avant, à part peut-être effectivement dans le monstre des temps perdus et la vallée de Gwangi.
En fait, je pense que la différence est dans le fait que Spielberg, ce qu'il aimait dans le bouquin de Crichton, c'est le fait qu'il décrit vraiment les dinosaures comme des animaux et qu'il les filme comme tels, même si bien sûr ça reste des monstres de cinéma, alors que dans les films près de Jurassic Park, j'ai l'impression que les dinosaures sont souvent des prétextes aux films de monstres. Mmh. Et le terme dinosaure, évidemment, ça fait rêver. Donc. Et je trouve que Le Monstre des Temps Perdus, c'est un bon exemple. Parce que le dinosaure n'existe pas. Ils ont choisi d'en créer un de toutes pièces, en fait. Parce que eux, ils voulaient juste un super monstre.
Oui, ils voulaient de la destruction, des scènes de destruction. Et à la fin, c'est vrai que. Entre la destruction finale du monstre des temps perdus, qui par ailleurs je trouve toujours très impressionnante, et c'est toujours super amusant de voir comment ils ont fait, parce qu'évidemment les effets spéciaux sont visibles, mais du coup c'est encore plus marrant de dire ah mais là en fait ils ont fait sur le jeu de perspective et tout, enfin il y a un côté très ludique et intéressant, mais ça reste entre guillemets, sans forcément que ce soit péjoratif, mais de la destruction porn, du film de monstre, un peu du kaiju bis, quoi.
Bah dans Gwangi, à la fin, la cathédrale qui prend feu, tout, ouais, qui s'écroule et tout, c'est vraiment scène. Genre, ok,
voilà, en plus, y a toute
qu'est-ce
la symbolique
qu'on peut faire oui. Tu sens cool. Que c'est vraiment le spectacle absolu de, ok, ça prend feu, ça s'écroule, les gens sont dehors en train de hurler, le truc qui l'a intérêt en train de hurler, d'agoniser
c'est,
aussi.
Pour le coup, c'est pas du kaiju bis, c'est du kaiju first, logiquement, puisque c'est l'inspiration. Salut, c'est l'équipe d'Écran Large qui interrompt le podcast d'Écran Large. On a un truc très important à vous dire, on lance une campagne de financement participatif sur Ulule, et on a besoin de vous. Pourquoi on fait ça ? Eh bien parce que comme tous les médias, on est menacé par des entreprises qui font la loi sur Internet, principalement Google, qui pompe de plus en plus nos revenus et empêche les gens d'accéder librement à l'information en créant un mur entre nous, les médias et vous. On lance donc une campagne Ulule pour plusieurs choses. Refaire entièrement le site écran large, continuer ce podcast et nos vidéos sur YouTube, et se lancer sur Twitch avec un rendez-vous en live pour analyser l'actu et interagir avec vous en direct. On pourrait même faire un documentaire sur les coulisses d'écran large pour montrer comment ça fonctionne, les médias. Si vous voulez nous aider, déjà on vous dit un immense merci, et on vous donne rendez-vous sur Ulule pour la campagne d'écran large qui s'appelle La Revanche du site. Fin de transmission.
Dieu, on dirait quoi, c'est le The Lost World en 1925 ? C'est le premier gros film de dinosaures ?
Alors, on sera peut-être pas d'accord sur la définition de gros film, mais je trouve que ce serait super intéressant de reparler du court-métrage Gertie, le dinosaure, de Winsor McCay. Moi, okay. Je sais, là, tu me regardes avec des yeux,
non,
genre,
non, c'était quelle année ? C'est quoi ? Je connais pas.
Bon, déjà, Winsor McCay, genre pour le resituer un peu, c'est aussi le créateur de Little Nemo, qui était déjà précurseur de la bande dessinée comics. Et donc là, en fait, il a fait un court-métrage de 12 minutes où, déjà, c'est un court-métrage méta parce qu'il se met lui-même en scène en tant que Winsor McCay, qui, en gros, s'arrête un peu par hasard dans une galerie de paléontologie, voit un brontosaure et se dit « Mais en fait, avec l'animation, je suis capable de redonner vie à ce truc, ce dinosaure et tout ça. » Et ensuite, il y a une partie en animation où on découvre donc Gertie, qui est une espèce de brontosaure avec des traits très enfantins, très simples, qui vit des petites aventures et tout ça. Et c'est généralement considéré comme le premier film d'animation à mettre en scène un dinosaure. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que ce côté très enfantin du dinosaure, bah aujourd'hui, ça nous paraîtrait un peu être une évidence. Sauf qu'en 1914, ça l'était pas du tout. Et voir un animal avec des traits très enfantins, qui a en fait une personnalité humaine, parce qu'il ressent la colère, la peur, il est gronchon, il aime bien faire des blagues et tout ça. C'est notamment ce qui a influencé Walt Disney pour faire ses films. Donc en fait, c'est vraiment genre un des dénominateurs communs de l'animation pour enfants, de faire des personnages, voilà, un personnage inventé, mais qui est surtout très enfantin. Et en plus, le film, je trouve qu'il, dès le départ, il exploite très bien en fait le fantasme de déjà rencontrer les dinosaures et le truc qu'on a pu voir un petit peu par la suite dans les Jurassic World et tout ça, de domestication, parce qu'en fait Winsor McCay avec son petit fouet, il domestique Gertie pour lui faire faire des tours et tout ça. Donc voilà, en fait Owen Grady, Chris Pratt dans Jurassic World avec ses raptors, c'est pas si déconnant que ça.
Un siècle avant.
Voilà, bah, ça faisait déjà avec un brontosaure et un fouet qui faisait dresser. Donc voilà, ce serait le point le plus ancien qui est en plus un dénominateur commun de plein d'œuvres d'animation pour enfants.
Ok, donc 1914. Et The Lost World en 1925, qu'on a adapté du livre d'Arthur Conan Doyle, qui est un peu, je crois, a vraiment un film historique dans le sens qui a utilisé pour la première fois aux États-Unis ou en tout cas dans le monde ce genre d'animation cette manière pour avoir un gros succès, pour vraiment rassembler un énorme public.
De cette manière, oui, mais donc c'est l'une des premières grandes œuvres donc de Wes O'Brien, qui est le mec qui a plus ou moins démocratisé l'utilisation de la stop motion dans le cinéma hollywoodien, technique qui est à jamais évidemment affiliée aux dinosaures parce qu'ils ont tous commencé par là, quoi. Et lui, son premier film, premier vrai film, on va dire, c'était aussi un court métrage qui s'appelait The Dinosaur and the Missing Link. Donc vraiment, la figure du dinosaure, elle est tellement liée à l'histoire du cinéma hollywoodien, c'est impressionnant parce que ce film-là, pour le coup, c'est très probablement le premier film à vraiment utiliser la technique de la stop motion. Tant et si bien d'ailleurs qu'à l'époque, ils ont dû voir ça comme une sorte de truc un peu expérimental, quoi. Et ce mec-là, ensuite, après The Lost World, il part faire King Kong. Tous ces films étant bien évidemment inspirés par Doyle, donc, comme tu l'as dit. Et c'est vraiment un peu le... C'est l'épicentre de tout ça, qui sera même repris jusqu'à même Crichton bien plus tard. Enfin, tout vient de là, quoi. C'est vraiment l'alpha et l'oméga du dinosaure, et le dinosaure étant sur certains aspects l'alpha et l'oméga du grand spectacle hollywoodien, parce que The Lost World est quand même une pierre angulaire du divertissement hollywoodien.
Et je trouve que c'est ultra généreux avec le recul que
le
tu vois, tu dis quand même.
Le volcan qui explose à la fin et tout, je m'attendais vraiment pas à voir ça en me disant un peu bêtement, bon bah voilà, ce sera assez limité niveau moyen, donc on va pas non plus avoir quelque chose de très spectaculaire. Et en fait, je suis grave content de m'être planté lamentablement comme ça, parce que non, le film est très 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 ambitieux.
Bah ouais, il étire les combats, c'est pas juste une scène au long. Et tout, t'as vraiment des scènes entières, plusieurs minutes où t'as des fights entre dinosaures, t'en as un qui gagne, t'en as un autre qui arrive et tout. C'est vraiment la structure classique de quand tu vois une scène avec des dinosaures aujourd'hui, quoi.
Ouais, sauf que c'est un film assez élaboré, franchement, c'est impressionnant. je pense qu'il est aidé par le côté un peu tableau de la mise en scène, forcément. Mais ça fonctionne vraiment bien.
C'est un brontosaure qui tombe de la falaise à un moment, non, aussi. En tout cas, il y a un dinosaure, un gros truc qui tombe de la falaise. Et aussi, je trouve ça vachement spectaculaire. Et tu vois la tension quand il tombe au sol, puisqu'en fait, il est pas mort. Bah, si, c'est un brontosaure, celui qui ramène à la fin à Londres.
Ah oui, parce qu'il continue
à respirer
là,
ouais. Et tout. Donc, tu vois vraiment la peau, enfin, sa cage thoracique qui continue à bouger. Donc, tu sens la tension à tout un tas de détails. C'est franchement impressionnant, même plus d'un siècle après. Et. Ça aussi, c'est drôle qu'à la fin, parce qu'on parle de l'importance de The Lost World, qui bon, s'appelle Le Monde Perdu comme le Spielberg, c'est qu'à la fin, il ramène le brontosaure à Londres et qu'il fout le bordel à Londres, qui casse des immeubles. Enfin, vraiment, c'est un truc où tu attends ça dans un film aujourd'hui, et parfois tu l'as, et il le faisait déjà en 1925.
Ouais, tu dis que tout l'imaginaire qu'on a aujourd'hui et tous les schémas narratifs qu'on retrouve dans les films de dinosaures qui, quand même, globalement, sont les mêmes. Bah, ça vient de là, quoi.
Ouais, tout est déjà là, c'est incroyable. Ça cristallise 100 ans de cinéma, même 100 ans de Hollywood, parce que finalement, t'as les deux versants du spectacle hollywoodien. Le « on va quelque part d'inconnu », c'est le cinéma d'aventure, et « quelque part d'inconnu vient chez nous », c'est du cinéma fantastique. Voilà, c'est Hollywood, quoi.
Avec la petite miette de romance super niaise où tu dis « je m'en fous, arrêtez de parler », il parle pas, mais de vous regarder, tombe amoureux, je m'en fous du triangle amoureux, mais bon, c'est un peu les codes obligatoires.
Mais déjà aussi, il y avait aussi la façon de représenter les dinosaures, d'accord, mais aussi la façon de représenter les humains face aux dinosaures, les réactions qu'on peut avoir, le message scientifique, le message de ne vous prenez pas pour Dieu, en fait, laissez le monde perdu où il est, ne le ramenez pas chez nous, enfin... Tout cet imaginaire-là qui a infusé et qui venait de là, quoi. C'est le sachet de thé dino.
Wow, ok, je m'y attendais pas, quoi.
Moi non plus, je m'y attendais pas, j'étais perplexe en la sortant.
C'est le film du dinosaure et le sachet de thé du cinéma, très bien. Et pour dire à quel point Le Monde Perdu a été important, c'est qu'il a été réadapté je ne sais pas combien de fois en DTV, en téléfilm, en série, jusqu'à Asylum dans les années 2000, c'est que vraiment ce truc a été un terreau, vraiment une source d'inspiration hallucinante.
Juste une question un peu d'un culte, mais cet imaginaire de un monde perdu, qu'il soit sous terre ou sur un continent qui abrite encore des espèces préhistoriques et tout ça, genre c'est une influence aussi de King Kong pour l'île du crâne.
Bah, de toute façon, King Kong ça vient de là. Plus ou moins presque adapté de Doyle. Enfin, c'est ça se met vraiment dans cette. Enfin, c'est à l'évidence que ça se met dans cette configuration-là. Plus élaboré et où il y a l'invention de Kong qui est le truc qui obsédait vraiment le réalisateur. Mais oui, c'est évidemment que c'est la même idée. De toute façon, la nouvelle de Doyle, elle est hyper importante.
Et d'ailleurs, j'avais découvert que a priori, ce film, Le Monde Perdu, a été le premier à avoir été montré dans un avion à l'époque, dans un vol commercial. Et que c'était hyper dangereux à l'époque puisque ça pouvait prendre feu hyper facilement.
Oui, bah, à l'époque, évidemment.
Ça me fait rire, des gens auraient pu mourir à cause du Monde Perdu projeté dans un
avion. Après, le fait que ça continue à être adapté encore beaucoup aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est dans le domaine public.
Oui,
donc,
exactement.
Donc, le titre,
c'est qu'on peut trouver le film.
On pourrait faire écran large de points, Le Monde Perdu, et on s'en tirerait. Donc,
Oui, tu peux le trouver sur YouTube gratuitement et légalement, du coup. Donc on est en 1925 et après on arrive directement à King Kong en 1933, c'est l'autre grande étape.
La grande étape non seulement du film de dinosaures mais du spectacle hollywoodien, ouais. Hein, ça a tout créé, la musique, la façon dont ils l'ont pensé, c'était du jamais vu, la façon dont ils ont fait les effets spéciaux, c'était du jamais vu, tout était du jamais vu, les studios eux-mêmes à l'époque en ont conclu des formes de recettes à appliquer pour gagner le box-office, et King Kong est un grand film qui, même aujourd'hui en le revoyant, a rien perdu d'une forme de majesté au-delà du grand spectacle, quoi, qui est vraiment saisissant.
Bah sur l'artisanat, la façon de faire, oui, il est totalement fascinant. Tu le regardes, tu le décortiques, tu te dis, mais déjà, avoir l'idée de faire ça pour rendre un effet spécial, je sais vraiment pas comment ils ont pensé à tout ça, c'était assez visionnaire sur le papier.
C'est le résultat d'un travail assez dingue, qui d'ailleurs est raconté dans un bouquin qui fait 900 pages et qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Kong, et qui est écrit par Michel Lebris. Je l'ai pas lu, mais... on en a beaucoup parlé à l'époque, et lui il relie tout ça à l'impact de la guerre, parce que bon, on est 33 quand même, sur l'imaginaire du cinéaste, sur Hollywood, etc. Et ça a l'air très intéressant.
Et le film a marché à l'époque.
Ah oui, c'est un gigantesque carton, King Kong.
Donc ok, The Lost World avait aussi bien marché, avait été un très joli succès. King Kong a encore remis une pièce dans la machine, même si dans King Kong, encore une fois, les dinosaures sont un accessoire autour de Kong, et que à la fin, ce qui ramène du monde perdu, l'élément fantastique qui ramène à New York, justement, c'est pas un dinosaure, c'est Kong. Donc oui. Vraiment, c'est un peu déplacer la figure pour faire du dinosaure un figurant, ce qui est un peu un des problèmes du genre, je trouve, parfois, et mettre King Kong au premier plan pour que ce soit lui qui soit le qui fasse office de giga monstre au milieu de la ville et qui sème le chaos.
Ouais, puis le rapport de force, bah forcément, je parle pas que du King Kong de 33, mais peut-être aussi des restes, mais quand tu vois, voilà, King Kong qui te torche du T-Rex à lui tout seul, bah forcément ça implique un rapport de force aussi, où là tu peux vraiment te permettre de quantifier la force de King Kong, le fait qu'il puisse buter des T-Rex quand même, ça prouve
c'est comme Black Adam qui arrive dans le DCU, quoi. L'échelle de puissance a changé.
Et surtout, il y a quelque chose...
Bah, lui, il est resté au moins.
C'est quelque chose qu'il y a dans King Kong, qui avait déjà un peu dans The Lost World, mais qui, là, je pense, contribue vraiment au facteur choc de ce film-là, c'est que les effets spéciaux sont beaucoup plus incrustés avec les personnages, ils sont beaucoup plus en rapport. Alors, c'est quelque chose que Harryhausen va pousser dans des extrêmes impressionnants par la suite, mais on a vraiment des monstres géants et des personnages qui cohabitent dans le même plan, ce qui participe d'un effet de sidération totale à l'époque... justifie.
Oui, notamment quand l'héroïne est dans le tronc d'arbre et qu'il tombe, qu'il roule et que le combat a lieu juste derrière elle et que tu dis, bon, en fait, elle va se faire écraser, quoi.
À l'époque, c'est des rétroprojections, c'est-à-dire qu'il filme les effets spéciaux en premier, il les projette sur un écran derrière les acteurs et les acteurs jouent par rapport à cet écran. Avec, dans le cas de King Kong notamment, beaucoup d'accessoires sur le plateau pour créer des effets de profondeur et essayer d'atténuer l'effet. Bon, et par la suite, Harryhausen va pousser encore cette technique un peu plus loin, mais la façon, l'ingéniosité du processus sur pas mal de plans l'a vachement emporté aussi. Quoi.
Donc le monde perdu, c'est marrant parce que, comme on disait, il a été réadapté plein de fois jusqu'à encore pas longtemps, de manière plus ou moins officielle, et King Kong aussi a donné lieu, alors qu'il date de 1933, à un film, c'était dans les années 70, le premier remake.
Il me semble, ouais.
Ouais. Et donc en 2005 avec Peter Jackson, et aujourd'hui, sourire de béatitude de Mathieu, et
quel
aujourd'hui, il revient dans l'univers Monsterverse de quel studio? Warner Bros.
De Warner,
Universal,
ouais.
Mais non. Avec, après Godzilla vs Kong. Enfin,
c'est Legendary, quoi.
Hein?
C'est Legendary.
Legendary.
Warner distribue, ouais.
Et le prochain, 2024, qui s'appelle, je sais plus quoi, New Empire.
Ouais, c'est ça. Tout le monde pensait qu'ils allaient faire Son of Kong. Mais c'est toujours possible parce que le teaser qu'ils ont balancé, il y a un genre de orang-outan sur le trône. Donc c'est possible. Son of Kong qui était donc la première suite du King Kong, qui a été réalisée un peu à l'arrache et qui a pas marché, je pense, enfin beaucoup moins que le premier King Kong. Donc ça a été la première, c'était aussi une des premières grosses suites attendues qui s'est un peu vautrée.
Donc dès les années 20-30, on avait un peu déjà les matériaux qui aujourd'hui continuent à être exploités comme des filons. Qu'est-ce qu'il y a après les années 20 et 30? Est-ce qu'il y a un autre truc de dinosaure un peu connu qui est un peu...
Fantasia.
D'accord, parlons de Disney.
Non, parce que c'est vrai que quand on parle de dinosaures, on a un peu tendance à laisser le Fantasia de 1940 de côté, parce que bon, Fantasia, c'est bon, vous connaissez ces différents segments, et donc le segment du Sacre du Printemps, donc sur la musique de Stravinsky, qui de base était un morceau qui déjà avait un petit peu fait polémique, parce qu'il évoquait en fait des danses tribales et des rites païens. Là, il a été utilisé en fait pour décrire la création de la Terre jusqu'à l'extinction des dinosaures. Et non seulement la séquence est incroyable et magnifique, comme tout Fantasia, hein, qui est une expérience assez folle, qui poursuit vraiment ce que Disney avait fait avec le premier court-métrage d'animation sonore, puis Blanche-Neige en animation traditionnelle, et là, expérimenter un ballet animé. C'était complètement fou, et ce morceau-là en particulier est très 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 différent, encore plus de tout ce qu'avait pu faire Disney, parce que comme je le disais avant, il y a eu Gertie, donc cette figure très mignonne, des petits animaux, voilà, un peu mascotte, et Disney avait suivi le truc jusqu'à se dire non, là par contre on va plutôt opter pour une approche scientifique, naturaliste vraiment, donc ils ont fait appel, bon évidemment le truc est cruffé d'anachronisme dans tous les sens, et il laisse plus la part belle au spectacle qu'à la véracité scientifique, mais il y avait quand même cette démarche de faire quelque chose de très différent, de pas faire de mascotte, de pas faire de trucs mignons, de pas faire de trucs qui parlent, mais de faire quelque chose de très contemplatif sur les dinosaures. Bon, déjà, il y a toute la création de la Terre qui est incroyable, mais je m'arrête plus sur vraiment les dinosaures, ou avec vraiment ce côté très contemplatif, et surtout l'iconisation du T-Rex, qui je trouve est incroyable dans le segment. Il arrive, il y a les musiques pan, pan, pan de tous les côtés, il y a la foudre. Et là, d'un coup, il ouvre la bouche, il y a le cri, il a la bouche rouge, rouge sang, alors que, et les yeux aussi rouge sang, alors qu'il est complètement noir. Enfin, c'est très, très, très impressionnant. Et il y a déjà le fait de l'imposer comme le prédateur ultime. Et vraiment, ce que je trouve encore plus fort avec déjà tout Fantasia, mais ce segment en particulier, c'est de créer de l'émotion auprès d'un jeune public sans personnage. Mmh. Sans personnage, sans non plus de comportement, on va dire, humain. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une maman avec ses bébés qui les protège. Enfin, on est vraiment
Pas de côté sentimental, en fait. Quand regardes, c'est assez impitoyable. C'est vraiment la loi de la nature, sans jugement dessus.
À la fin, tu finis sur l'extinction des dinosaures. Oui. Tu vois les dinosaures mourir, ce qui est... C'est sûr, tiens, objet de fascination, bah on va te
tu l'aimes,
montrer,
il est mort.
En train de le détruire sous tes yeux comme ça. Donc je trouve que Fantasia est vraiment super importante parce que bah, déjà il y avait cette approche de on va faire quelque chose de scientifique. D'ailleurs les travaux ont été réutilisés dans quelques musées aux États-Unis pour faire un peu des présentations pour les enfants. Du coup ils ont appris pas mal de conneries, mais bon l'intention était là, on va dire. Et puis à cette époque des conneries sur les dinosaures, il y en avait tout plein et il y en a encore tout plein aujourd'hui. Mais du coup voilà, dès 1940 il y avait la figure du T-Rex, et en plus évidemment c'est ce segment qui a inspiré Spielberg pour le petit dinosaure et la vallée des merveilles.
Chut, on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que dans mon souvenir, ce que je trouve impressionnant dedans, c'est le regard un peu froid sur, en fait c'est comme ça que se passe la nature. Donc tu vois un peu la chaîne alimentaire, tu vois un truc qui fuit, qui se fait bouffer, celui-là se fait bouffer aussi, un truc que tu revois dans plein de films de dinosaures après. Et il y a un moment, je crois, dis-moi si je me trompe, où donc le T-Rex arrive et commence à faire peur à tous les autres dinosaures. Il en chope un, et là, en fait, au moment où il en chope un, les autres, tu sens que leur peur se calme. C'est genre, en fait, il a à manger, c'est bon, il va se calmer. Donc je trouve ça intéressant de pas le montrer comme un monstre qui va absolument tout ravager, mais juste en fait il est là pour bouffer. Voilà.
C'est un prédateur.
Mais c'est intéressant, tu vois les autres dinosaures qui du coup d'un seul coup, quasiment tu peux plaquer sur eux l'émotion de oh notre ami est triste, mais bon c'est ainsi, la vie continue. Du coup je pars, mais cette fois je ne cours plus puisque maintenant il est repu, donc je peux y aller. Et je trouve ça amusant qu'il y ait ce détail plutôt que tout le monde fuit et il bouffe quelqu'un, genre il est là pour semer le chaos. Non en fait c'est un animal comme les autres, c'est juste qu'il est très gros quoi.
Oui, puis en plus à la fin c'est la nature qui sème le chaos, puisque après t'as toutes les catastrophes qui prend le dessus pour l'extinction des dinosaures. Mais c'est vrai qu'il y a déjà ce côté, c'est pas un monstre, c'est un prédateur que t'as pas envie de croiser.
Voilà. Et ok, années 40, j'ai l'impression qu'après ça commence à vraiment s'accélérer dans les années 50, que ça ressemble un peu à l'exploitation où là t'as les Guangui et tout un tas de trucs qui sont un peu
Voilà, Guangui ça arrive quand même pas mal en queue de comète.
C'est déjà quand le truc est bien installé.
Ça commence un peu à s'essouffler, je pense.
Avec quoi ça a commencé à se surexciter alors?
C'est difficile de dire exactement. Je pense que le monstre des temps perdus est quand même un point de... Ouais. C'est un point d'entrée que beaucoup de gens prennent parce qu'il y a beaucoup des éléments de son scénario qui ont été repris dans beaucoup d'autres œuvres de fiction par la suite, ne serait-ce que l'idée d'essai nucléaire, enfin d'essai de bombe nucléaire.
C'est quoi l'histoire de ce film? Je l'ai pas vu moi.
Bah, alors je sais plus pourquoi il tire une ogive nucléaire d'ailleurs au début. Est-ce que c'est un essai?
Parce que pourquoi pas.
Je crois que c'est un essai.
Ok.
Et c'est en fait ça réveille un monstre qui habitait dans la glace, enfin qui était congelé dans la glace. Je crois que c'est le Rhédosaurus, un truc comme ça.
Il a 10 millions d'années.
Voilà, c'est un dinosaure qui n'existe pas, du coup, qui est un genre de mélange plus ou moins entre un T-Rex et un stégosaure, quoi.
D'ailleurs, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que justement, une des scientifiques émet l'hypothèse qu'en fait, peut-être qu'il a été prisonné dans la glace ou alors il est dans une espèce de poche où il avait des réserves de nourriture. Et de là il y a un scientifique homme un peu plus âgé qui est très condescendant avec elle et qui la prend de haut un peu en mode oui mais alors ce cas là que vous aviez vu et qui paternalise beaucoup, mais en fait les animaux ils étaient vivants donc c'est pour ça et machin, et justement après pour se prendre en plan dans la face qu'il avait tort. Et j'étais un peu en mode chè devant mon ordi en regardant ça.
Mais oui, non, mais voilà, ce Rhédosaurus casse tout, et il casse tout, et c'est à peu près l'intérêt.
Il se réveille, et après, il va sur le continent et expose tout ce qu'il croise.
Grosso modo, c'est un peu ça.
Et après, il y a l'Oxygen Destroyer équivalent, qui est balancé du haut d'une grande...
Tour
Non, ça c'est pas une tour, non. Je fais un cercle avec mes doigts. Ça tourne, c'est dans une fête foraine.
Ah, une grande roue.
Une grande roue, merci.
Et là, c'est l'une des premières contributions de Harryhausen, qui prend donc plus ou moins la succession de O'Brien, donc qui est devenu très célèbre pour les effets de King Kong, et qui est donc a complètement démocratisé l'idée du stop motion. Et Harryhausen, lui, est un fan en fait du travail de O'Brien. Il a regardé King Kong, il faisait ses propres essais dans son coin, et ensuite ils se sont rencontrés. O'Brien lui a dit de prendre des cours de sculpture, et Harryhausen a lui-même fait son trou dans ce cinéma et a pris la relève pour perfectionner la technique. Alors que O'Brien, on a fait de moins en moins. Et donc lui, il est allé sur cette production-là, et donc c'est lui qui a animé le monstre, etc. Et film qui, à la base, devait être The Monsters from Beneath the Sea, donc vraiment grand classique du titre de série B des années 50, etc. Et en fait, maintenant, c'est techniquement plus ou moins adapté d'une nouvelle de Bradbury, de Ray Bradbury, qui s'appelle The Fog Howe. Et en fait, c'est pendant la pré-production que Harryhausen, ayant lu la nouvelle, leur a proposé de tout changer pour en faire un gros dinosaure et plus ou moins s'inspirer de cette nouvelle.
Ah oui, voilà. C'est marrant, donc c'est pas un film de dinosaure au départ, c'est un truc qui
alors,
a un peu
je
été...
Je me rappelle plus si le monstre a changé, je ne sais plus. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, en tout cas. À partir du moment où il a découvert la nouvelle, où ils ont acheté les droits du roman du coup dans la foulée, ils ont changé le titre et ils ont changé leur manière de faire pas mal de trucs.
Ok.
C'est peut-être pour ça qu'il... Enfin, là c'est à toi de me dire, mais il ressemble pas énormément à un dinosaure, il ressemble plus à une espèce d'iguane géant,
ouais,
un
ça,
peu
après,
mutant.
Pour le coup, je pense qu'ils ont vraiment réfléchi à quel dinosaure on prend géant. Et il y a vraiment eu le choix conscient, je pense, d'en faire une sorte de mélange, comme les films qu'il a inspirés, dont, évidemment, Godzilla, c'est l'anecdote la plus célèbre autour de ce film. Mmh. Voilà.
Ok. Donc début des années 50 et après ça s'enchaîne un peu, j'ai l'impression, voyage dans la préhistoire, c'est avec un dinosaure ça ?
Ah oui, alors ce film-là est vraiment à part pour le coup, pour l'avoir vu.
Ouais.
Je pense qu'il faut le mettre un peu à part de cette vague-là, parce que c'est un film tchèque. Et c'est... Tout à l'heure on parlait du fait que le cinéma hollywoodien utilisait les dinosaures comme des monstres, comme typiquement dans le Monstre des Temps Perdus. Mais ce film-là a vraiment... En fait c'est des enfants qui remontent une sorte de rivage du temps. Et donc au début, il y a des mammouths, etc. Voilà. Et c'est, ça ressemble presque, pour moi, la référence en fait, c'est Safari Préhistorique, les séries de la BBC. C'est-à-dire que il y a de l'interaction, etc. Ils sont parfois un peu en danger, mais l'intérêt vraiment, c'est éducatif quasiment en fait. Ils remontent et ils voient différents. Alors il y a des mammouths aussi, etc. Et à un moment, évidemment, ils arrivent aux dinosaures. Et même l'animation est très différente. Bon, du coup, il n'y a pas Harryhausen, etc., qui sont les gens qui ont travaillé sur la plupart de ces films-là pour Hollywood. Donc voilà, c'est vraiment film tchèque. Et en fait, à la fois à cause des limitations et d'un autre côté, avec cette volonté de vraiment les présenter comme des animaux, comme le fera Spielberg des dizaines d'années plus tard, leur animation est très différente. Il n'y a pas le côté hyper vif et très technique de ce que fait Harryhausen, à cette période ou un peu plus tard. Au contraire, des fois, il y a juste leur corps ne bouge pas et on voit juste par exemple leur tête qui bouge un petit peu, etc. Qui finalement ressemble à la façon dont beaucoup de vrais animaux bougent. Enfin, c'est-à-dire que voilà, tu vois, enfin, ça sert pas à rien. Moi, mon chat, des fois, il reste debout pendant 2 minutes et sa tête, elle bouge seulement.
Ton chat
seule.
Et un T-Rex, c'est quoi, genre.
Le chat de Mathieu et les dinosaures tchèques des années 50, même combat.
Il est beaucoup plus féroce.
Ok, et donc là, ouais, les dinosaures ne sont pas montrés comme la menace qu'ils
ils,
vont
bah,
devoir...
Ils peuvent être des menaces entre eux. D'ailleurs, je crois qu'il y a quand même un combat entre est-ce que c'est un T-Rex, je ne sais pas, mais un prédateur. Et, il me semble que c'est un stégosaure. Et d'ailleurs, ils vont sur le cadavre pour pleurer le cadavre du stégosaure, ce qui fait aussi beaucoup penser à Jurassic Park et la scène du Triceratops. C'est assez étonnant en fait, de voir ça, parce que en 55, alors en plus, il y a une copie qui a été restaurée, alors il y a je ne sais plus combien de temps. Et du coup, le film a vraiment de la gueule avec cette restauration. Il est en 4 tiers, etc. Et c'est assez joli, en fait. C'est vraiment joli. Par contre, narrativement, c'est vraiment juste des gamins qui racontent en voix off. Il y a même un plan qui revient souvent où ils nous ont une sorte de carnet avec un schéma de où est-ce qu'ils vont dans le temps, avec les airs et tout. Donc on est vraiment...
Super didactique.
Ouais c'est hyper didactique.
Okay.
Mais les prises de vue des dinosaures sont vraiment jolies et assez agréables à regarder dans cette période de série B. Donc très fun aussi au demeurant. Mais c'est assez différent. Ouais.
Bah ouais, c'est marrant, je pensais pas qu'il y avait déjà un truc aussi différent à la même époque. Pour moi, tout était dans le même tunnel de gros monstres, destruction.
Bah,
et à la fin,
tu quittes un peu Hollywood, quoi, de toute façon.
Ouais,
voilà.
Oui. Et la montagne mystérieuse, c'est Hollywood, ça ?
Oui, ça, je pense que oui, il me semble, si je dis pas de bêtises.
Donc, on est toujours dans les années 50. Après, j'ai vu qu'au début des années 60, il y a la série Les Pierres à Feu, où là, t'as le dinosaure qui s'appelle le Dino, je crois, tout simplement, qui est l'espèce de chien, quoi, vraiment. Quand il arrive, il saute sur son maître. Donc, bon, c'est pas forcément... Non, mais c'est marrant parce que dès les années 50, 60, t'as déjà un peu les différentes variations, quoi. T'as le monstre, t'as le côté un peu éducatif qu'on aura dans les séries docu-fiction, t'as la sitcom, qui était la première série animée, Les Pierres à Feu, montrée en prime time, donc t'étais déjà dans un truc de divertissement populaire. Qu'est-ce qu'on peut faire de dinosaure si on en faisait un gros chien? Parce que, bon, après tout, Mathieu parle de son chat, pourquoi ne pas en faire un gros chien? Et après, dans les années 60, avant la vallée de Gwangi, parce que tu disais que c'était un peu la queue de comète, est-ce qu'il y a d'autres gros films importants ou est-ce que c'est un peu celui qui a le plus marqué?
Il y a les films de la Hammer dont tu parleras un peu plus tard, je pense.
Ah oui, c'est vrai que c'est dans les années 60.
C'est un peu avant.
C'est vrai qu'il y a les Cave Girls de la Hammer.
Ouais.
J'ai des choses à dire.
Il y a quand même. Alors déjà, en fait, c'est aussi tout le paradoxe du dinosaure, c'est comme on l'a dit. C'est un peu devenu un mot valise à un moment pour en faire tous les monstres films des années 50. Notamment, voilà, il y a un film qui est assez amusant qui s'appelle Reptilicus. Et c'est un film américano-danois de 1961, et ils disent que c'est un dinosaure, mais c'est bon, en plus c'est un énorme nanar qui chroniquait sur Nanarland. Ça ressemble pas vraiment à aucun dinosaure qui existe, c'est un gros monstre en fait. Et d'où peut-être on peut faire le point Godzilla, parce que si un jour on fait un article sur les dinosaures, on pourrait nous reprocher de ne pas parler de Godzilla. Ouais. C'est compliqué, c'est-à-dire que Godzilla s'inspire du monstre dans le temps perdu. Donc c'est le producteur qui était dans l'avion retour, enfin dans l'avion de retour d'un tournage, je sais plus. Bref, il était dans l'avion et en regardant la mer, il a fait le lien dans sa tête entre le monstre des temps perdus et un accident qu'il avait eu avec un bateau japonais qui s'est retrouvé sur un site de test nucléaire américain et qui avait disparu. Et ça avait fait un petit à l'époque, on en avait pas mal parlé étant donné le contexte historique qui est un peu particulier bien sûr de l'époque. Et donc ça a donné Godzilla, qui est un mix entre plein de dinosaures, hein. Il a les plaques de stégosaure et il ressemble un peu à un T-Rex, etc. Mais dans le film, il est bien spécifié que c'est un monstre qui vient avant Godzilla. Donc techniquement, il rentre pas dans cette catégorie. Et en fait, comme beaucoup d'autres monstres qu'il va y avoir après lui et même un peu avant, c'est une sorte de monstre un peu générique, mais dont les attributs des dinosaures ont été plaqués dessus parce que ça fait des références visuelles pour le public et ça fait des monstres effrayants, tout simplement.
Oui, puis quelle est la différence entre Godzilla et un Indominus Rex, un truc qui est créé de toutes pièces en disant c'est un dinosaure qui n'existe pas, mais c'est un méga dinosaure, bah, c'est un peu la même idée. C'est que tu crées un truc qui dépasse le fantasme, tu essaies de créer un super, super, super dinosaure. Là, il s'appelle Godzilla, ils en ont fait une superstar. Comme King Kong d'ailleurs, tu crées un gros monstre, t'en fais un truc très spécial, très spécifique, et puis après, tu crées la saga du monstre.
Oui, mais de toute façon, d'ailleurs, les différents. Bon, je vais pas me lancer sur Godzilla, sinon. Voilà. Si un jour on faisait un podcast, il faudrait que quelqu'un nous propose de faire un épisode sur Godzilla, je me ferais un plaisir de faire 4 heures dessus.
Qui le ferait avec toi?
Seul, au micro, Mathieu.
Mais oui, pour passer vite là-dessus, la plupart des 25 ou 26, je crois, films Godzilla récupèrent cette théorie du monstre pré-dinosaure ancien qui le nucléaire, etc. Mais bon, il y a plusieurs périodes dans l'existence de la saga Godzilla, la plus célèbre étant la période Showa où il y a tous les trucs qu'on considère un peu comme kitsch, donc vraiment les gros films de kaiju qui se mettent sur la tronche, les gens dans les costumes, etc. Mais l'ère Heisei, qui est donc l'ère des années 90, qui est un poil plus sombre, propose une autre origine pour Godzilla dans le Godzilla vs King Ghidorah des années 90, je sais plus l'année exacte, qui est un film extrêmement fun au demeurant. Et à un moment, en fait, ils reviennent dans le passé et Godzilla est donc le Godzillazaurus. Et la raison pour laquelle il mute en méga lézard, c'est qu'il se prend une frappe nucléaire américaine.
Ah, Godzilla Zorus, j'ai compris Godzilla le russe. Je me suis dit, putain, je comprends rien.
Ce qui sera un peu cohérent aussi. Du coup, ce serait pour ça qu'il l'attaque.
Ok.
Voilà. Mais bon, dans le même film, il y a un méca King Ghidorah, donc ça part vraiment en steak. Mais c'est une origine, une des origines de la saga.
Mais c'est vrai que tu disais que les dinosaures finalement étaient juste des gros monstres, et littéralement, t'as ça dans un million d'années avant Jésus-Christ, en 1966, où ils ont agrandi genre un lézard, un iguane, t'as une araignée, t'as une tarentule, et t'as quelques monstres comme ça, qui sont juste là, t'as une tortue aussi, non? T'as une sorte de tortue. Et en fait, ils les ont juste grossis, quoi, et ils poursuivent les gens, et t'es censé te dire que t'as juste peur d'un truc qui est grossi à côté de dinosaures. Donc c'est marrant le côté, en fait, il faut juste que ce soit gros, et que t'aies des gens à moitié à poil qui partent dans tous les sens.
Madame, à moitié à poil.
Oui, et en 55, il y a un truc qui s'appelle King Dinosaur, je sais pas si vous avez
King Dinosaur.
Ouais, qui est vraiment une série B qui... Bon, c'est difficile de parler de série Z à l'époque, mais qu'on est quand même pas très loin, là. Et je pense... Alors, j'ai pas vu le film en entier, parce que... faut se l'infliger, le truc, même si c'est court.
Si Mathieu l'a pas vu en entier, mais je sais
pas. Bah non, en plus,
je
l'ai trouvé dans une qualité... Enfin, regardable, quoi. Ouais. C'est hideux, ça. C'est un truc qui a 70 ans, qui a pas été préservé avec le grand soin, si tu veux. Donc, et en fait, je crois vraiment que l'intégralité ou la quasi-intégralité des plans d'effets spéciaux du film, c'est des plans sur des lézards ou des serpents. Et c'est hilarant parce qu'en plus ils sont très rarement dans le même plan des personnages, justement. Du coup, c'est vraiment juste les trois bonhommes qui font oh, attention, il est géant! Et là, t'as un plan sur un lézard random qui se balade, genre où est la prochaine mousse que je vais gober.
Ouais, alors que dans un million d'années avant Jésus-Christ, au moins ils font l'effort d'aller mettre dans le même plan. Donc tu vois,
là,
le truc
là
à côté,
c'est vraiment fait
dis, okay,
pour le coup.
Moi aussi, j'en ai peur. S'il y avait une tarentule géante.
Et il y a des dinosaures, il n'y a pas
et
que
des,
ça.
Voilà, il les mélange pour que tu dises sur un malentendu, tu vas dire qu'à la même époque, il y avait des tarentules géantes, on ne sait jamais.
Mais j'ai rattrapé ce film il n'y a pas très longtemps, là, un million d'années avant JC. Et je me suis vraiment posé la question si ça avait été une source d'influence pour Alain Chabat, pour Re, avec genre les cheveux propres et les cheveux sales, parce que dans le film, genre, t'as la tribu des cheveux blonds et des cheveux bruns.
Ceux qui prennent une douche dans leur petit lac, et oui, ça va, je ne sais pas, faut demander à la Chaba.
J'ai cherché sur Wikipédia, j'ai pas trouvé genre d'influence ou de citation directe de Chaba qui dit oui, je me suis beaucoup inspiré de ce film, mais je me suis dit, tiens, c'est chelou, j'y pense.
C'est vrai que c'est assez intéressant de voir un million d'années avant Jésus-Christ aujourd'hui.
Non, mais vraiment, d'abord, c'est le personnage masculin qui apparaît, il me semble, bon, bah, il est hirsute, voilà, non, sa tenue avec ses espèces de plaies de léopard, ok, très bien. Et puis d'un coup, il y a le premier personnage féminin qui débarque. Elle a les seins, mais genre push-up qu'elle en peut plus, le décolleté.
Le push-up préhistorique.
Le push-up préhistorique avec le maxi décolleté. Elle a les cheveux, mais lisses. Il y a eu usage de bigoudi aussi certaines fois pour faire le wavy. Tu sais, elle est là, elle a les cheveux wavy, elle a le teint parfait et tout, elle a les dents blanches. Et puis... elle est juste là à se dodiner comme ça parce qu'il n'y a pas de dialogue dans le film, donc du coup elle est juste là comme ça à remuer, enfin, c'est assez gênant de regarder ça.
Mais en tout cas je me permets de te corriger par rapport à tout à l'heure, c'est La Montagne Mystérieuse, en fait c'est le titre français du film qui s'appelle The Beast of Hollow Mountain, et celui-là aussi il est un peu particulier parce qu'il est mexicain et c'est l'autre film avec Guangui à mettre en scène des dinosaures dans un univers de western. Voilà.
Donc quelqu'un l'avait fait avant.
Oui, il l'avait fait avant, une bonne dizaine d'années avant. Ouais.
Bon, revenons sur le sexisme de 1 million d'années avant Jésus-Christ, parce que ce film-là, j'ai l'impression qu'il y avait Harryhausen sur celui-là. Il a fait un stop-motion de 1 million d'années avant Jésus-Christ. Donc il y a un peu de Kali quand même.
Oui, parce que quand tu vois les dinos, c'est quasiment les mêmes que ceux de la vallée de Guangui, non ?
Je crois que c'est recyclé, je crois qu'il a réussi.
Ouais, parce qu'on dirait vraiment... calquer genre les mêmes quoi.
Ouais, non, c'est pour ça que c'était un peu une période d'exploitation quoi, vraiment des dinosaures. Et alors il y a un truc qui me fait beaucoup rire dans celui-là quand j'ai un peu fouiné en me disant mais qui sont les gens qui ont fait ça. Alors déjà, à part l'AVC de juste de réunir des dinosaures et des êtres humains sous forme de tribus, je crois que a priori ça n'a jamais eu lieu de cette manière. Ce qui est amusant, c'est que vraiment ils avaient pour ambition d'en faire une espèce de James Bond, parce que avant de caster Raquel Welch, ils avaient quand même essayé de choper Ursula Andress, qui joue donc la première James Bond girl dans Dr. No, qui clairement avait piscine ce jour-là, elle avait autre chose à faire. Donc ils ont engagé une autre actrice, et ils ont quand même engagé pour jouer la brune, je crois, avec laquelle elle se bastonne, l'héroïne. Donc c'est un moment où vraiment les deux meufs moitié à poil
le
se tabassent dans
là.
Une cabine autour du feu avec un os et tout
voilà.
Ça.
Et t'as tous les mecs qui regardent en mode on va pas les interrompre.
Or, qui va gagner, on va sortir le popcorn. Donc cette actrice, c'est Martine Beswick, qui joue dans James Bond, dans Bon Baiser de Russie et dans Opération Tonnerre. Et le plus drôle, c'est que Raquel Welch, qui joue donc l'héroïne, est doublée par une actrice qui s'appelle Nikki Van Der Zyl, qui était la voix de doublage d'Ursula Andress dans le premier Dr. No, James Bond, parce qu'elle savait pas bien parler anglais.
Ah oui, en fait, ils sont vraiment dit, on peut pas avoir Ursula Andress, on va la redoubler par la voix d'Ursula Andress.
Mais du coup,
tu
as vraiment l'ambition de faire un truc, de donner aux mecs, au public masculin de l'époque, un truc de James Bond. Donc t'as des meufs, t'as les actrices de James Bond qui sont là, quoi. Ça me fait
Mais
trop
en plus, il y a des dinosaures cette fois.
Et donc ce truc-là a ouvert la voie à un truc qui s'appelle les Cave Girls du studio Hammer. Parce que dans les années 60, à cette époque-là, les films d'horreur de l'Hammer étaient, enfin, ils étaient un peu moins, ils avaient un peu moins le vent en poupe, donc ils cherchaient de nouveaux filons, et c'est devenu le Joker préhistorique. Alors malheureusement, il n'y a pas des films avec que des dinosaures, il y a tout un tas de films avec surtout le centre de ces films étant des tribus et des meufs à moitié à poil.
Bah, tu vois sur les affiches,
bien coiffé.
Là, tu vois sur les affiches, c'est la femme, bon, pas très très habillée, dans une peau soit ultra vulnérable, soit sexy, et puis un peu parfois au fond des dinosaures.
Mais c'est trompeur, parce qu'au début, je me suis dit, putain, vas-y, il y a 3-4 films avec des dinosaures. En fait, je regardais, il n'y a pas de dinosaures, il n'y a que des gens à moitié à poil, c'est tout, ils se tapent dessus, ils dansent, et voilà. Mais donc, le plus drôle étant qu'il y en a un qui s'appelle, en anglais, c'est Creatures the World Forgot. En VF, c'est Violence et Sexe. Au temps préhistorique.
Je veux encore une meilleure anecdote là-dessus.
Vas-y.
Le réalisateur, c'est Don Chaffee de ce film. C'est aussi celui qui a réalisé Peter et Elliot le Dragon pour Disney. Et aussi un film Lassie. Voilà.
Lassie, en vrai, je ne l'attendais pas.
Juste après, Violence et Sexe, au temps préhistorique.
Ouais, mais les titres VF hallucinants. Il y en a un qui s'appelle simplement Les Femmes Préhistoriques, au cas où tu ne savais pas ce que tu allais voir au cinéma. Et tu en as un avec des dinosaures qui s'appelle Quand les dinosaures dominaient le monde.
Ouais, inspiration pour Spielberg pour la fameuse banderole dans Jurassic Park.
Oui, exactement, quand tu vois la fin. Ouais. Et là, c'est toujours la même formule. Hein. C'est des meufs à moitié à poil, t'as des tribus, t'as des hommes virils avec de la barbe. Ils doivent se battre, ils récupèrent une gonzesse, qui sont toujours bien épilées, bien coiffées et toutes propres. Ils se battent, il y a quelqu'un qui est enlevé par un
Un ptérodactyle.
T'as pas trop de tortues, de trucs géants comme ça. C'est plutôt vraiment des dinosaures. Donc, quand les dinosaures dominaient le monde, c'est un peu plus drôle. Y a pas de dialogue, puisqu'ils font juste comme ça du début à la fin pour que tu comprennes que la dramaturgie est très développée.
Mais c'est Jean-Jacques Hano qui a réalisé ça, non?
Bah, carrément, ça a dû l'aider, ça a dû l'inspirer. C'est un peu la guerre du faux version teubé, quoi, avec juste des meufs à poil. Et surtout que quand les dinosaures dominaient le monde, t'as vraiment une scène de cul. Donc, t'as un moment. Il va pour la baiser et il lui retire son soutien-gorge préhistorique. Et à un moment, elle va se baigner, elle a poil et lui, il est toujours habillé en fait. Enfin, habillé. On s'entend habillé selon les critères de mode de l'époque, mais bon. Voilà.
de l'époque des années 70 ou des années moins de 3000 avant Jésus-Christ.
De l'époque préhistorique selon les années 70. Et là, le pire, c'est que vraiment, ça finit, il y a une espèce de tsunami, t'as des crabes géantes. En fait, tout ce film, c'est une histoire de sacrifice avec une tribu qui vraiment vénère le soleil. À l'époque, la lune n'existe pas. Et le film se termine avec tsunami, crabes géants, des gens qui sont enlevés, ils essayent de partir sur un radeau, et t'as un truc bizarre qui se passe dans le ciel. En fait, tu es censé comprendre que la lune est créée sous leurs yeux, générique de fin. Voilà. C'était donc la naissance de la lune selon les années 60 qui revisite la préhistoire. Donc c'est un peu drôle quand même tous ces films. C'est un peu ce que tu peux attendre d'un film de merde, exploitation des années 50 avec des dinosaures. Et parfois t'as des éclats de génie sur techniquement la stop motion quand les gens parlent pas et qu'ils sont juste tués. C'est assez drôle, franchement. Tu vois un peu en plus toute la finesse de genre Raquel Welch dans Un million d'années avant Jésus-Christ. Elle disparaît derrière un rocher pour que il puisse passer à la stop motion et tout. Donc tu vois, il y a quand même de l'intérêt qui est du côté technique, quoi. Vraiment, c'est une bande démo, quoi. Donc c'est un peu amusant. Je sais pas si on les conseillerait.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jean, je sais pas qui je pourrais conseiller ces films-là, à part Mathieu, mais je pense que tu l'as déjà vu, non?
Non, mais par contre, tu m'as donné envie, j'avoue. Sauf ceux où il n'y a pas de dinosaures, parce qu'il faut pas déconner. Non
ouais, plus. Non, clairement. Donc, il faut voir Un million d'années avant Jésus-Christ et Quand les dinosaures dominaient le monde. Les autres, je pense que c'est vraiment pas très utile.
Après, voilà, ils pâtissent forcément de la comparaison avec Gangui maintenant.
Voilà, c'est ça. C'est que donc ça, c'était 66-70 et au milieu, vers la fin, il y a 1969, La vallée de Gangui, qui est un des grands classiques incontournables.
Oui, voilà, qui
est
vraiment. Il me semble que c'est d'ailleurs la dernière fois qu'Harryhausen met en scène des dinosaures.
Ouais, il s'est dit après
c'est
ça,
un peu le. C'est un peu la quintessence de sa technique, hein. Le fameux dynamation, là, je crois que c'est comme ça que ça se dit.
Je crois d'ailleurs qu'il voulait réutiliser du côté Hammer. En fait, il n'avait pas les droits, c'est pas lui qui les possédait. Donc, il a dû essayer de trouver un truc différent. Il a voulu donner un autre nom, mais on l'a empêché de le faire. Donc, je crois qu'effectivement,
c'est hyper marrant.
C'était drôle.
Mais donc on dit, du coup, la dynamation, c'est. En fait, c'est vraiment en prolongeant de ce qu'on parlait tout à l'heure avec O'Brien, ce système de projection. Sauf que là, c'est un système de calque, en fait, relativement plus complexe que ça, évidemment. Où vraiment on peut superposer des personnages et des dinosaures dans le même plan. La différence que chez O'Brien, c'était projeté, donc les acteurs avaient quelque chose sur lequel se baser pour leur réaction. Alors que là, c'est un peu comme faisait Méliès à une époque, en fait, finalement, c'est-à-dire on tourne une prise de vue d'une partie et ensuite on met un calque pour que l'autre prise de vue arrive par-dessus. Et du coup, tout arrive dans le même plan, mais les effets spéciaux sont faits à part et les acteurs réagissent aux effets spéciaux à part. Voilà. Et déjà à l'époque, tu vois, il y a beaucoup d'acteurs qui se plaignent, qui
les
peuvent
les
fonds verts, on voit rien, mais mine de rien, depuis les débuts de ces effets spéciaux-là, ça consiste à trafiquer la pellicule et donc de tourner face à rien, quoi. Et ouais, Gangui, c'est excellent, mais. Et je dis que ça arrive un peu en fin de course parce que c'est un peu quand même là. Bon, déjà, le film donc a pas hyper bien marché de ce qu'on en sait, même si, bon, encore une fois, les chiffres de l'époque, des fois, c'est un peu difficile de les interpréter. Mais bon, ça a quand même beaucoup moins marché que d'autres grands succès de l'époque. Et bah, c'est aussi la fin du western hollywoodien américain. Celui-là, c'est les spaghettis qui sont en train de prendre le relais. Donc, c'est un peu le dernier râle de ce cinéma-là. Parce qu'en plus, il y a une naïveté qui aurait pas du tout chez Leon, qui c'était des westerns beaucoup plus violents. Et c'est aussi un peu le dernier râle voilà, du film de monstre des années 50 qui... Bon alors là, c'est pas un truc nucléaire évidemment qui les réveille, mais c'est un peu la même chose.
C'est marrant, j'avais jamais réfléchi au fait que c'était un peu le crépuscule de deux genres qui étaient croisés à ce moment-là, même si c'était pas la première fois comme tu disais.
Bon, c'est pas complètement le crépuscule des dinosaures, parce qu'il y en a encore dans les années 70, mais parfois des trucs un peu plus bis quand même, on va pas se mentir, on est plus dans le côté grand truc hollywoodien. Et la boucle est bouclée, parce qu'à la base, Gonki, c'était un projet de Willis O'Brien qui voulait le faire, sauf que la RKO a jugé que il n'allait pas faire un film de dinosaures à cette époque-là, je crois que c'était dans les années 40, donc c'était après King Kong, parce que ça intéressait pas assez les gens. Et donc, il abandonne le projet, et c'est Harryhausen qui a repris ensuite le relais pour faire sa version. Bon, après, la version de O'Brien était assez différente, parce que dans certains de ses sketchs préparatoires qui sont visibles un peu ici et là, on peut voir qu'il y avait un des premiers concepts pour le Gwangi du titre, c'était une sorte de gigantesque ours. Donc,
ah oui, d'accord. Voilà.
Mais
ok, c'est... moins fun.
Voilà, et il y avait d'autres concepts avec d'autres dinosaures. Enfin, il a testé des trucs, mais il y avait quand même cette idée de, on prend le western qui, bon, du coup, dans les années 40, c'était une autre mayonnaise, et on balance des monstres dedans avec de la stop motion et le choc des genres un peu. Et c'était ce qui l'amusait. Et voilà, Harryhausen a pris le relais, et pour moi c'est vraiment de ses meilleurs films.
Mais on est d'accord que c'est encore une fois un remix à peine caché de Lost World, de Doyle.
Ah bah oui, ils vont chercher les créatures dans un endroit du monde qui a été préservé de l'homme et tout ça, donc on est clairement sur ce fantasme de quelque part sur Terre, il y a un petit bout de terre où l'homme n'a jamais mis les pieds et où vivent des
puis
espèces.
Et tu le ramènes à la fin, et c'est le bordel parce que tu veux le montrer en spectacle dans un cirque, il bouffe tout le monde et tu le butes quoi.
C'est plus la version King Kong, c'est le côté spectacle que dans Lost World où il ramène. Et ça se...
Bah, il y a spectacle dans Lost World, il dans un théâtre, aussi, c'est juste que c'est une autre forme de spectacle, mais c'est le même côté, sauf que dans Lost World, à la fin, le brontosaure s'échappe après avoir pété le pont Tower Bridge, il part à la nage, tu te dis il va rentrer chez lui, tranquillement, alors que dans Gonki, il est anéanti dans l'incendie de la cathédrale.
Le dinosaure meurt dans une cathédrale en flammes à l'époque, et si on considère vraiment le dinosaure comme une sorte de divinité hollywoodienne, l'image est lourde de sens, quoi. Voilà.
Et surtout que dans ce film-là, ok, je reproche tout un tas de trucs à Jurassic World, mais ce schéma narratif-là de, voilà, maintenant, le public est blasé, on a besoin de plus spectaculaire, de plus grandes dents. Bon, là, c'était avec... parce que normalement, ils étaient un cirque, c'est ça ? Un cirque équestre.
Ouais, il y a un cheval miniature.
Oui, voilà, et après, justement, ils trouvent le cheval miniature et ils se disent, ah, bah ça, justement, le public, c'est nouveau, il va aimer, on va l'exploiter. Et après, quand ils ont la possibilité d'avoir des animaux encore plus impressionnants que des éléphants ou des chevaux, des trucs comme ça, ils se disent, bah voilà, c'est commercial en fait, c'est un business c'est pensé pour faire plaisir à un public de plus en plus difficile à satisfaire. Et au final, c'est exactement le message du premier Jurassic World.
Ouais, non, mais tu retrouves cette idée du dinosaure qui représente le cinéma hollywoodien en tant que truc, sorte de gigantesque figure ultra spectaculaire, mais à la fois très ancienne, qui est tangible, mais en fait pas vraiment. Que, encore une fois, Spielberg n'a pas du tout inventé, il s'est inscrit dans ce prolongement là et c'est présent depuis hyper longtemps. Et ouais, je trouve que t'as raison, je trouve que Gwangdi le met vachement bien en scène, c'est assez amusant.
Et il y a un truc que je trouve c'est assez merveilleux quand tu vois le petit cheval être présenté en stop motion, parce que t'as l'impression que c'est comme c'est pas, alors ils te disent que c'est un dinosaure, je sais pas si c'est vrai, mais on dirait clairement un cheval miniature, on te dit oui c'est un machin, bon, d'accord,
on y croit.
Voilà, on y croit, mais je trouve ça amusant que ça prenne la forme d'un minuscule cheval.
Oui, on n'est pas sur le gigantisme attendu.
Et tu te dis c'est un animal qu'on connaît, mais le fait qu'il soit miniature et le fait qu'on te le montre en stop motion, c'est vraiment la collision entre deux mondes. D'un côté t'as juste l'existence normale des gens dans les années 60, les héros, donc le monde des gens qui ont découvert le film, et t'as ce truc qui est vraiment autre, alien, genre c'est un petit cheval, donc tu le connais, mais il est petit, en stop motion, donc c'est comme si vraiment on a un segment d'un autre monde où les choses bougent différemment et tu les vois à la fois en étant émerveillé par la nature de la chose, mais aussi comment il bouge, parce que quand il déambule devant eux, tu sens que l'émerveillement il vient à la fois de c'est un petit cheval, mais aussi de mais il bouge différemment, genre on dirait un pantin, il y a un truc un peu merveilleux qui vient de, mais en fait on a un bout qui vient d'un autre monde, comme si c'était vraiment une porte ouverte vers le temps, quoi.
Et c'est aussi pour ça, je pense, que la stop motion est aussi liée à comment on met en scène les dinosaures au cinéma à cette époque-là, dans le sens où même l'animation caractéristique de la stop motion, du coup tu l'affilies forcément à la façon dont bouge un dinosaure, et il y a une forme de corrélation entre les deux qui renforce encore ce côté un peu produit hollywoodien qui est assez fascinante et qui est vraiment je trouve il y a une forme de tendresse quand tu revois ces films près de Jurassic Park.
Quand tu vois le petit cheval, franchement, c'est beau, quoi. C'est pas beau parce que c'est du spectacle et que tu te dis, ah, s'il va tout péter, il va tout bouffer. Tu dis, c'est un petit cheval. C'est vraiment de l'ordre de l'enfantin. Il y a un côté merveilleux, quoi.
Mais il y a aussi quelque chose de pervers parce que le fait qu'on soit face à un animal qu'on connaît, version miniature, qui en plus est assez mignon, ils lui font faire des petits tours, là, comme si c'était un petit schpitz. Il y a aussi.
On voit son enfance à Nice et Cannes, là, qui ressort.
C'est clair.
Mais ça permet aussi au personnage humain du film de se trouver une sorte de légitimité à aller les chercher, de supériorité face à ces animaux, genre bon bah voilà, c'est des petits êtres qu'on peut facilement capturer, qu'on peut facilement exploiter, et oui, on est les hommes, on est supérieurs, on est les meilleurs, tout ça, alors qu'au final, arriver sur place, bah, c'est pas la même chose.
Et d'ailleurs, dans tous ces films dont on parle, de ceux que j'ai vus, la constante aussi, c'est que les personnages humains, quand ils essayent de développer, sont inintéressants au possible. Dans Gongi, ils sont inintéressants, et d'ailleurs je trouve qu'ils sont même pas cohérents, genre le professeur il est un peu gentil, un peu méchant, à un moment il est vraiment perfide, il les manipule, tu dis c'est un gros bâtard, c'est l'ennemi, c'est l'antagoniste, et à la fin il a un peu des scrupules, elle aussi qui change, tu sais, en fait à la fin t'as envie que personne survive, parce que personne n'est attachant, t'as pas de héros, t'as pas de personnage qui est attachant, quoi.
Oui, au début t'as juste envie que les dinosaures arrivent, parce que ça m'a quand même un peu de temps à démarrer.
Mais je trouve ça marrant qu'il n'y ait pas une personne au milieu qui représente vraiment la bonne nature de, mais pourquoi on va les emmerder, pourquoi on veut les ramener. Tout le monde change un peu de camp, tout le monde a envie d'avoir du succès, tout le monde, moi c'est un peu tiédas, mais c'est un peu ce qu'on retrouve dans les Jurassic aujourd'hui, de les personnages sont inintéressants. Et pour moi, le gros problème de toutes les suites de Jurassic Park, c'est que les personnages sont toujours antipathiques, alors qu'ils essayent tout le temps de les développer un petit peu, et c'est quand même compliqué de recréer des gens avec qui t'es un petit peu d'empathie, quoi. C'est peut-être dans les Godzilla vs Kong, ils essayent avec les gamins de créer un peu genre la nature la plus pure et innocente, mais bon, pour les résultats qu'on connaît, quoi.
C'est la cata, les personnages dans Godzilla vs Kong.
C'est sûr. Mais quand tu vois les personnages de Jurassic World aujourd'hui, moi je trouve que c'est moins catastrophique, dans le sens où on essaye vraiment de te les rendre attachants. Ils ont des histoires d'amour, ils reviennent dans plusieurs films.
Ils ont des grandes quêtes de rédemption.
Dans le 3, c'est infernal. Parce qu'ils reprennent ce que justement Spielberg avait réussi à faire, c'est-à-dire à infuser dans le gros Dinosaur Fest des personnages attachants, avec des motivations très simples, mais hyper efficaces. Et puis une relation, bon là ça vient de Coep, mais cette relation de flirt avec Ian Malcolm et Ellie, qui est amusant, parce que du coup ça crée une dynamique à trois très simple, mais hyper efficace. Et en fait, Jurassic World 3, c'est une catastrophe, parce qu'il essaye de rejouer de ressusciter, comme il ressusciterait un dinosaure génétiquement modifié. Enfin, c'est fou, quoi. Il finit par être la cible de sa propre critique. Cette alchimie-là qui ne fonctionne tellement plus, tu peux refaire 15 fois le même plan que t'as vu il y a 30 ans, ça marchera pas, en fait.
Ah oui, non, c'est une catastrophe. Bon. Ne rouvrons pas le dossier Jurassic World 3. Fin des années 70, après, j'ai noté dans les choses importantes les années 80, y a un peu un pic avec Denver, le dernier dinosaure, et le petit dinosaure.
Voilà, surtout.
Les deux en même temps. Non, surtout. 88. Denver, le dernier dinosaure, a compté pour des gens, tu sais.
Oui, d'accord, ils sont pas dans cette pièce.
Ouais, j'ai grandi avec Denver qui passait à la télé, hein, et quand ils disent mon ami est bien plus encore, tu te demandes ça veut dire quoi. Qu'est-ce que vous faites le soir?
Mais après, c'est vrai que c'est intéressant de parler du petit dinosaure et la vallée des merveilles en prenant Denver comme porte d'entrée, parce que Denver, au final, c'est un concept qui est assez ludique, mais qui réinvente rien. On est sur les enfants qui rencontrent un dinosaure et qui deviennent amis avec, parce que c'est le fantasme de tous les petits enfants d'avoir un ami dinosaure, blablabla.
Qui parle pas, mais qui comprend l'anglais. Ça aussi, c'est étonnant. Il sort de là, qui comprend l'anglais,
qui joue de la guitare, enfin voilà, tout ça. Et le petit dinosaure et la vallée des merveilles, c'était tellement une approche qui était à rebours de tout ça. Don Bluth avec Steven Spielberg et George Lucas comme producteur. Déjà, le trio incroyable. Donc évidemment que ce film a fait toute ma vie. Et il y avait vraiment cette volonté de parler des dinosaures dans le monde des dinosaures, c'est-à-dire il n'y a pas de voyage dans le temps, il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de clonage, il n'y a pas d'île perdue dans le monde, il n'y a rien de tout ça, on est autant des dinosaures. Et vraiment, ce film, pour moi, c'est le film parfait. Tu ne peux pas enlever une image, tu ne peux pas enlever une ligne de dialogue, rien, tout est parfaitement à sa place. Déjà, cette ouverture où on est dans les fonds de l'océan et on comprend directement l'ambiance, parce qu'on a une espèce de petit étard comme ça qui barbote, et un gros poisson qui essade le buter. Bon, il n'y arrive pas, mais déjà...
Il sort de l'ombre, d'ailleurs, c'est assez joli, ce truc, parce qu'au début, tu ne vois pas qu'il est là, un effet
très
classique. Il
me fait d'ailleurs beaucoup penser au Barracuda dans Merlin l'Enchanteur. Bon, bref,
très bien.
Voilà.
Je ne dirais pas le contraire, si tu
veux. Donc voilà, il y a cette créature qui débarque, et direct, tu dis, ok, donc là, on est dans quelque chose d'un peu plus grave, on est sous l'eau, il y a les bulles, il y a cette c'est éthéré comme ça, on sait pas trop où on est. Et là, d'un coup, la tête du long cou qui plonge et après on remonte comme ça et on est dans le monde des dinosaures. Et
juste... Déborah, elle est en transe là.
elle va faire tout le film comme ça. Et là, il y a des bulles, c'est incroyable.
Oui, c'est des bulles, mais ça, c'est l'immersion.
Ok, non, parce que moi, je pense que j'ai vu, pour te calmer deux secondes, je pense que j'ai vu le film quand j'étais gamin, comme plein de gens. J'avais pas beaucoup de souvenirs, donc je l'ai revu parce que t'avais l'air tellement enthousiaste, je me suis dit peut-être. Et. Oui, bof. Enfin, je trouve ça très mignon, mais non, qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel, pour toi ?
C'est parce que tu l'as revu quand t'étais adulte, mais je te jure que je te dis, j'ai pas le souvenir de mon tout premier visionnage du film, mais je me revois le visionner dans ma chambre et je me revois être complètement happée par le film parce qu'au début, le narrateur, il s'adresse à moi. Il me dit, mais tout ça, c'est bien avant toi, c'est bien avant les mammouths, c'est bien avant machin. Et il m'emmène comme ça, il m'emmène. Et moi, je suis là, genre, ah ouais, vas-y, avant les mammouths, il y avait quoi ? Et avant tout ça, il y avait quoi ? Et vraiment, il y a cette sensation de on va me raconter quelque chose, on va me livrer un secret un petit peu. Il y avait du coup cette complicité avec le narrateur qui s'inscrit dès le début. Et en plus, le film développe vraiment tout un imaginaire. Il y a tout un vocabulaire qui est spécifique au film. On parle pas du soleil, on parle du cercle de la vie, on parle pas des feuilles, on parle des étoiles d'arbres, on parle pas de grenouilles, on parle de sauteuses.
On dirait une secte de développement personnel.
Il fallait pas y penser comme le soleil, mais comme la source de la vie. Allez, achetez notre eau à 50 euros, s'il vous plaît.
On dit pas secte, on dit scientologie.
Mais voilà, le film a vraiment une approche très, très ludique et très pédagogue. Mais il est pas là, en fait, pour nous bombarder de noms scientifiques. Il est vraiment là pour nous expliquer l'ordre primaire. En fait, c'est la porte d'entrée rêvée. On nous explique, voilà, d'un côté, il y a les dinosaures qui ont les dents plates et qui mangent des feuilles. De l'autre côté, il y a les dinosaures qui ont les dents pointues et qui mangent de la viande. Enfin, c'est tellement genre l'imagerie du dinosaure, ce livre que j'avais quand j'étais petite et que j'adorais, qui était transposé en film, en fait. Et surtout... En plus de tout ça, c'est un film, comme tous les films de Don Bluth d'ailleurs, qui ne sous-estime jamais la capacité d'investissement émotionnel d'un enfant devant un film. Et je trouve ça très très important, parce que c'est juste pas un film qui prend les enfants pour des cons. C'est au contraire un film qui a énormément de respect envers son public. J'ai la voix qui chevrotte. Vraiment, j'adore ce film. Et tout à l'heure, je regardais encore la scène de la mort de Maman Longcou. Qui, je pense que je pourrais l'avoir une centaine de fois, elle me mettra les larmes aux yeux une centaine de fois. Et déjà, il y a ce truc très fort de la mort, de la destruction, la première apparition de dents tranchantes. D'ailleurs, pendant très longtemps, les dinosaures, je les ai appelés comme dans Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, hein, avant de sortir des pontosaures ou des trucs comme ça. Il y a eu beaucoup
pendant
d'années.
Que Mathieu faisait son tableau de classement périodique.
Ouais, il y avait les longs coups, les queues à pointe.
Mais c'est débile ton classement. Comment tu fais la différence entre un allosaure et un T-Rex du coup ?
Non, mais voilà. Tue la magie de quand on est petit, quoi. Ah, on s'en fout.
Mathieu, tueur de magie depuis des
années. Il y a les herbivores, les canivores, il y a les mangeurs de feuilles et il y a les dents tranchantes. Voilà, c'est comme ça, c'est les deux ordres. C'est très limité scientifiquement, mais on s'en fout, on comprend le principe. Et voilà, il y a cette scène de la mort qui, je trouve, a un impact émotionnel qui est terrible. Parce que voilà, allez, hot take, tout le monde se touche sur la mort de Mufasa dans Le Roi Lion. C'est la scène la plus triste, c'est oh là là, machin. Mais regardez le petit dinosaure. Mufasa, c'est comme Bambi, tu vois, la maman de Bambi, elle meurt en hors-champ, c'est un peu triste, mais là, on nous montre Maman Longcou agonisée avec son petit à côté qui dit, mais pourquoi tu me demandes ça, maman, de toute façon, tu seras toujours avec moi, hein, pas vrai? Comment tu veux ne pas avoir le cœur, mais en lambeaux à ce moment-là, et encore pire du pire du pire. C'est le moment où il voit son ombre en très grand, où il crie « Maman !» et il y a la musique qui s'emballe, comme s'il allait retrouver sa mère, toi t'es à fond dedans et tout, et puis il court et court et court jusqu'à se rendre compte que c'est, en fait c'est juste son ombre. Non, non, non.
Il est très con ce petit dinosaure quand même, on va pas se mentir. C'est la conclusion que j'en tire.
En plus, c'est vraiment un film de gauche parce qu'il est anti-communautarisme.
Elle essaie de t'avoir, Mathieu, elle essaie de t'avoir avec la gauche.
Tu dis ça.
C'est politique, hein, comme
tu dis ça. Tu dis que c'est anti-communautariste après avoir passé 10 minutes à expliquer qu'il y avait d'un côté les mangeurs de feuilles et de l'autre côté les mangeurs
non,
de
viande. Non, il y a les méchants et les gentils. Oui, eux, ils se mélangent pas.
Les véganes et les autres.
Voilà. En fait, ils se mélangent pas.
C'est une vraie guerre de civilisation.
Tout le film, en plus, avec la portée politique qui te dit, bon, en plus, le film, c'est en 88, donc à la fin de la guerre froide, où on te dit clairement que l'individualisme ne nous mène à rien, qu'il faut se serrer les coudes, qu'il faut se mélanger, enfin bref, qu'il faut être multiculturel. Enfin, politiquement, c'est très à gauche, hein, Mathieu.
Il a marché le film à l'époque ou pas ?
Oui, il a très bien fonctionné quand il est sorti. Il était premier au box-office US. en sachant que Oliver et compagnie, qui est sorti à peu près en même temps, lui, il était quatrième et il a fait quasiment le même score que Oliver et compagnie. Bon, en vrai, c'est pas une comparaison ouf parce que à ce moment-là, Disney était un peu à la ramasse et Oliver, ça fait vraiment partie un peu du fond de catalogue qui a été réhabilité par la suite, mais qui avait pas forcément fonctionné économiquement. Et ensuite, ben, non seulement il a bien fonctionné au box-office, mais parce qu'il a remporté 48 millions. Ouais, voilà, c'est ça, un peu moins de 50 millions pour 12 millions de budget, hors inflation évidemment, et surtout derrière, c'est devenu une putain de franchise.
Ah bon, il y a eu des suites ?
13.
Mais avec,
oh, te jure.
Avec le petit dinosaure,
avec
le même.
Oui, avec la même bande. Bon, ils ont rajouté quelques petits personnages après.
Mais qu'est-ce,
mais...
qu'est-ce qu'ils font dans les 13 suites, bordel?
Non, mais
quoi.
Attends, en fait.
Oh, mais lance la patte, du coup. Malheureux, quelle question t'as posée?
Je vais te faire les 13 films, donc.
Mais non, mais du coup, c'est à chaque fois, il y a une petite aventure.
Ouais, voilà, en fait, c'est ça. À chaque fois, il y a un pépin dans la Grande Vallée.
Ah, ils restent dans la Grande Vallée, parce que j'ai l'air, c'est un peu leur objectif.
Bah, en fait, oui, parce qu'on t'explique un peu que bah, t'as la Grande Vallée qui est un peu la dernière terre fertile, et tout autour, c'est la fin, quoi. Genre, tout est désertique, ouais, ou glacier. Bon, après, ça change un petit peu en fonction des films où on te dit, non, en fait, il y a des îles où ça va très bien, et tout ça. Mais non, non, ils font des aventures, mais en fait, après, c'est juste devenu de l'exploitation et de la franchise, parce que déjà, c'est sorti en direct tout DVD.
Ah, il n'y a que le premier sorti.
Voilà, c'est le premier. Sinon, après, tout le reste, c'est du DTV. Et en plus, la première suite, elle date de 1994. Comme c'est étonnant. Et
y a après, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est fou, après, le nom de film avec dinosaure dans le titre en 94.
Et après, justement, ça a continué parce que au même moment, en 94, t'as Disney qui avait lancé avec Aladdin 2, le business des DTV, où c'était pas que des trucs érotiques ou du B un peu crade et tout ça, où ça pouvait être des produits familiaux corrects, entre guillemets, mais en mode il n'y a pas de sexe dedans.
Pas de sexe. Justement, comme tu parles des années 90, avant... En fait, ce qui est marrant, c'est de se dire qu'avant Jurassic Park, il y avait déjà des films de dinosaures installés et des films assez intéressant. Parce que donc en 93 t'as Carnosaur, en 93 t'as aussi Super Mario Bros, enfin, où il y a des
Carnosaur
qui est lié à Jurassic Park.
Oui,
c'est avant
qu'il sorte, comment, même... évidemment que ça sort pas du chapeau.
En 94, donc juste après, tu as Tammy et le T-Rex, t'as la famille Pierre à Feu, les quatre dinosaures et le cirque magique. Ça, je pense qu'il y a que Déborah qui l'a vu, non?
Oui, ouais. C'est Universal, et même moi je trouve vraiment pas ça ouf.
En 95 tu as Theodore Rex, donc oui, il s'est passé un truc qui s'appelle Jurassic Park, c'est sûr. Il y a le Carnosaur effectivement qui est sorti juste avant Jurassic Park.
Mais sachant que même avant le craquage années 90, déjà dans les années 70, ça part un peu en steak. Hein. Moi, il y a un film que j'aime bien qui s'appelle Le Sixième Continent, est sorti en 74. Je trouve ça amusant parce que 74, c'est quand même l'année du début du nouvel Hollywood américain. Bah, il y a Jaws qui va bientôt sortir, et du coup, bah voilà, c'est la nouvelle ère du blockbuster qui n'a plus besoin de stop motion, etc. Et ironiquement, qui ensuite sera le même réalisateur, va plonger une ère encore supérieure avec Jurassic Park. Et ce film-là, c'est marrant, c'est qu'il n'utilise pas de stop motion justement, et c'est des marionnettes, etc. Et du coup, c'est assez rigolo parce que le design des... Et en fait, c'est pas si mal fait, mais les designs des dinosaures sont très différents de ce à quoi nous a habitué Harryhausen, etc. Et notamment, le premier dinosaure qu'il voit, ça m'a beaucoup fait rire, c'est un diplodocus, et le truc, il a des dents qui font la taille de son avant-bras, quoi. Tout est vorace. Il y a pas de... Tout est meurtrier. Mais on est déjà, on en parlait tout à l'heure, mais on a plus ce côté noble hollywoodien. C'est un peu bizarre de dire ça, étant donné qu'il y avait déjà beaucoup de séries B à l'époque. Mais on est déjà dans la série B un peu plus velue, quoi. C'est déjà un peu plus rigolo. Voilà. Après ça, t'as la planète des dinosaures, où déjà, ils conservent un mélange des genres un peu douteux. Ils reprennent le Rhédosaurus, d'ailleurs, du monstre étant perdu dans ce film, voilà. Okay. Donc voilà, on commence déjà à être un peu sur la pente glissante du truc un peu bis.
Ouais, mais les années 90, craquage complet.
Mais après Jurassic Park, ils sont lâchés, ouais.
Mais c'est ça, le retour de Jurassic Park est un peu évidemment le classique du genre qui a vraiment révolutionné la manière de voir les dinosaures et la manière de percevoir les dinosaures pour le public, le large public. T'as eu quand même les trucs qui, clairement, à une époque où il y a un boom de la cocaïne aux États-Unis, parce que quand tu regardes vraiment ce qui se passe dans Mario, dans Tammy le T-Rex et dans Theodore Rex, qui sont tous des espèces de... Je dirais même pas des navets ou des nanars, parce que chacun est un cas tellement étrange. Alors, pour le coup, Carnosaur, je trouve que c'est une énorme daube. Hein. Moi, vraiment, je trouve ce film à chier. Hein, je le trouve chiantissime.
C'est un peu chiant, quand même.
Ah, mais il se passe rien, quoi.
Clairement, le bas de panier du commun, okay, il en a rien à foutre.
C'est même pas généreux.
Ah ouais.
ouais, non, c'est vrai. Moi, c'est juste le principe.
Puis va résumer ça, quoi. C'est une histoire de poulet transgénique qui donne ça, naissance dans des œufs à des dinosaures non, qui après, grandissent moi, à vue d'œil, quoi.
Moi, non, mais... c'est plutôt, tu vois, genre, tu parlais des personnalités qui sont ultra lisses ou vraiment pas intéressantes, humaines, j'entends, dans les films de dinosaures. Bah là, t'as ce personnage de scientifique. Bah, en fait, je le trouve génial, en fait. Genre, juste la meuf qui est en mode, mais nous, on est juste de la grosse mère, c'était les dinosaures qui étaient mieux. Bah, je vais faire en sorte que.
Ah oui, non, mais c'est vrai que la motivation de la méchante sont hilarantes.
Oui, parce qu'elle veut juste qu'il y ait une nouvelle ère de dinosaures. Voilà. Et elle-même, d'ailleurs. En fait, quand tu résumes l'histoire, quand je le regardais d'un demi-œil, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est cette scientifique qui s'est dit, je veux que les dinosaures reviennent sur Terre parce qu'on n'est pas assez bien, il faut que les dinosaures reprennent leur territoire. Du coup, elle a fait muter avec un virus qu'elle a lâché dans l'air et qui a muté avec des poulets qui donnent dans leurs œufs des dinosaures, ouais, donc certains œufs sont énormes. Elle accouche d'un dinosaure parce que t'as un virus aussi qui est vraiment dans l'air, donc régulièrement t'as un petit écriteau sur l'écran qui te dit taux de contamination. Donc les gens commencent à tomber enceintes de dinosaures et eux-mêmes du coup donnent naissance à un dinosaure et c'est ça l'histoire.
Non, mais... c'est vrai que dit comme ça ressemble à un chef-d'œuvre, mais c'est un peu chiant quand même.
C'est hallucinant quoi, vraiment. Régulièrement, je me disais, en plus, quand les dinosaures arrivent, c'est filmé n'importe comment. T'as vraiment la caméra, on dirait que les trucs, c'est tous des oiseaux. Oui. Ils arrivent vraiment en fonçant sur les pare-brises, ils sont filmés par petits morceaux, tu comprends rien comment les choses sont faites quoi.
C'est très moche.
Ouais. C'est un grand moment épique. D'ailleurs, la mère de Laura Dern qui joue Ellie Sattler dans Jurassic Park, c'est celle qui incarne la scientifique là.
Oh, sérieux ?
Diane Ladd.
Ah, c'est trop marrant.
On a toujours trouvé ça genre.
C'est vraiment. Il devait faire des dîners, elle devait se dire alors comment était ton dinosaure aujourd'hui, et moi c'était de la grosse merde, ça a coûté 3 balles et toi bah moi c'était un animatronique à 1 million quoi.
Mais je crois que vraiment Carnosaure c'est un des seuls films de dinosaures que je peux citer où je m'intéresse plus aux personnages humains qu'au dinosaure en lui-même. Ouais.
En même temps, vaut mieux, hein, parce que vu ce pour ce qu'on voit les
dinosaures.
C'est
vrai que c'est pas très généreux côté
dino.
Moi
je m'intéresse surtout aux poulets, tu vois. Non, moi, pour le coup j'ai vu les suites, le 2 et le 3. Ah. Alors le pitch du 2, vous me dites à quoi ça vous fait penser, ok? C'est une équipe de Marines.
Alien.
Et en fait, il y avait une autre installation à l'endroit où il y avait l'ancienne installation du premier. Et du coup, ils y vont pour voir ce qui s'est passé. Et là-bas, sur place, ils trouvent quelqu'un d'amnésique qui est survivant du bordel. Ouais, ok, c'est vraiment Alien, le retour avec Carnosaure. C'est exactement la
même
chose.
Et le 3, Carnosaure 3, c'est dans une prison.
Le 3, je l'ai vu, je l'ai oublié.
Ok.
Et vraiment, mais instantanément, c'est hyper osef. Mais en vrai, le 2 a ce côté un peu marrant de Alien.
Généreux alors, peut-être
Alien... Non, pas vraiment. Ah, Alien, le retour. En fait, il est plus kitsch parce que. Alors, je crois que c'est à partir du 2 et non pas à partir du 3, où c'est plus des animatroniques, mais là, carrément, des mecs dans des costumes.
Oui, ouais,
version...
Pour aller plus vite.
La... Mais version encore moins, quoi. On n'est pas chez la
oui,
tour.
Parce que Carnosaure, à l'origine, c'est un livre des années 80 de John Brosnan. Pas Pierce, et c'est Roger Corman qui, l'a, ah, putain, qui s'est dit vas-y, il y a Jurassic Park qui arrive, on va surfer dessus, du coup il faut qu'on fasse ce film très rapidement, donc on s'en fout comment c'est fait, tournons-le rapidement. Ils ont eu 18 jours de tournage pour un budget de 850 000 $, ce qui est 75 fois moins que Jurassic Park, pour vous donner une idée quand même. Dans les autres trucs assez dingues, c'est bon, vite fait parlons de Mario, parce que j'avais oublié à quel point il y avait des dinosaures dans Mario. Parce que Yoshi, en fait, tout tourne autour, pareil, d'une réalité parallèle où les dinosaures sont encore là et le film commence avec une vue de New York à l'ère des dinosaures, sauf que c'est des pixels et tu vois qu'en fait, à l'époque, avant New York, il y avait des dinosaures et en fait, tout tourne autour de rétablir l'ère glaciaire des dinosaures et de transformer les gens en dinosaures.
Bah, c'est Carnosaure, en fait.
Non, mais c'est, franchement, les deux ont un synopsis assez proche parce que, en gros, le méchant qui est joué par Dennis Hopper... Je crois que c'est Dennis Hopper.
Ouais, je crois que c'est ça, ouais, il me semble.
Je crois qu'il a plus ou moins, il est plus ou moins présenté comme un mec qui a l'âme d'un T-Rex, donc d'un prédateur, et il a une machine qui transforme tous ses ennemis politiques en espèce de dinosaures débilos. Donc ils ont un énorme corps et une toute petite tête de dinosaure, et je sais plus comment il s'appelle dans le film.
C'est les Koopas, hein, c'est l'interprétation des années 90 de ce que c'est qu'un Koopa, tu sais, ce joli petit carapace mignon dans les jeux vidéo
génial,
Nintendo.
Je crois que tout ça, ça vient quand même du jeu Super Mario World sorti en 90 où t'avais l'île des dinosaures, Dinosaur World, un truc comme ça.
Oui, parce que c'est l'épisode avec Yoshi.
Ouais.
Enfin, c'est celui qui introduit Yoshi.
Bah voilà,
Yoshi
du coup, tout est parti de là.
Techniquement un dinosaure, ouais.
Donc, notons que dans les dinosaures, il y a quand même le film Mario qui tient une petite place, quoi.
Mais avant, n'empêche, Jurassic Park, il y avait aussi eu un craquage, il faut que je vous en parle de ce film, parce que je me le suis infligé, donc autant que je vous en parle. Ça s'appelle Adventures in Dinosaur City, en France. D'ailleurs, c'est le seul pays, je crois, où il est sorti au cinéma, sinon ça a été du DTV. En France, bizarrement, il lui a donné une sortie cinéma.
Le cinéma.
Sous le titre tellement original de Dinosaur, voilà.
Ah oui.
Et en fait, ce film, il est vraiment presque anachronique parce que c'est un film avec des dinosaures un peu futuristes et des cave girls en 91.
Quoi?
C'est quoi l'histoire? Attendez. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, le point de départ, si déjà c'était pas si cheap, il y aurait vraiment quelque chose d'un petit peu ludique dans lequel tu peux te reconnaître. Mais en fait, c'est trois potes qui sont fans de Dino. Voilà, ils écrivent des fictions de
L'enfance
Dino.
De Mathieu.
Ils regardent un dessin.
Non, moi j'avais pas de potes par contre.
Oui, voilà, ils se rejoignent le soir pour regarder un petit dessin animé avec des dinosaures et des hommes des cavernes et tout ça. Et leurs parents, les parents d'un des gamins, ils sont scientifiques et ils ont inventé une espèce de rayon laser qui permet de revenir dans le temps, ou j'en sais rien. En gros, tu manges une orange et puis l'orange elle revient, enfin les trucs comme ça. Et à un moment, ils décident de regarder leur dessin animé sur cet écran géant dans le labo et ils se retrouvent projetés dans le dessin animé. Donc là, ils arrivent dans une ville où les dinosaures ils sont anthropomorphes, ils portent des vêtements et tout, juste c'est des dinosaures très très moches, très très laids en plastique avec des gens dedans. Et t'as un groupe d'hommes des cavernes et de femmes des cavernes, sauf que le film il s'adresse à un public très très jeune, mais il est quand même très 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 porté sur le gourdin, quoi, si... pour le dire sur le sexe, quoi. Genre, il y a des blagues vraiment, genre ça se voit que c'est pour un jeune public, et genre à un moment t'as carrément l'adolescente du groupe qui est adolescente, qui est mineure, qui est lycéenne, qui est envoyée déguisée en cave girl, donc voilà, petite tenue légère, pour aller en gros allumer deux hommes des cavernes et faire diversion. Et t'as vraiment un moment les hommes des cavernes, tu les entends avec le doublage français bien de quoi. Vas-y, retourne-toi. Et à un moment, elle tombe, cette gamine tombe et elle est rattrapée par un dinosaure qui la rattrape par les seins et il fait les Robert.
Mais non. les Robert,
déjà voilà ce terme, avec le ton bien libidineux et tout, genre les Robert comme ça, j'étais en mode mais qu'est-ce que je regarde.
Mais ça me rappelle Théodore Rex avec Whoopi Goldberg qui se passe aussi dans un monde où les dinosaures sont là. Et il y en a un, Théodore, c'est un détective. Donc il vit chez lui, au début tu le vois, il prend sa douche et c'est compliqué quand t'as une grosse queue pour rester dans le champ lexical de ton film de merde. Parce que du coup, il doit prendre son costume, il est un peu déprimé, il se retrouve à faire un duo de choc avec Whoopi Goldberg pour résoudre une enquête de merde. Et je crois qu'il a un peu des dons parce qu'il a un don un peu entre dinosaures. En fait, t'arrives à sentir ce qui s'est un peu passé chez les autres. Donc au moment où quelqu'un se fait tuer, un dinosaure se fait tuer, lui il ressent quelque chose et il a un peu un feeling, genre c'est Profiler, tu vois. Whoopi Goldberg regrette amèrement d'avoir fait ce film, évidemment. Parce qu'à l'époque, il y a eu toute une histoire de procès, apparemment, elle aurait dit oui, mais sans vraiment penser que c'était un oui réel. Du coup, le producteur l'a menacé de l'attaquer parce qu'il avait sur son répondeur un message où elle disait qu'elle allait le faire. Donc, ils ont négocié pour qu'elle le fasse. Le tournage, apparemment, était une catastrophe. Ouais,
il va y avoir une bonne ambiance.
C'est clair. Et le film a été une telle catastrophe que la sortie cinéma a été annulée. Donc, en 95, c'est devenu le plus cher DTV de tous les temps. Ça a été changé depuis parce que ça avait coûté 33 putains de millions, quoi. Après, techniquement, Théodore, t'es direct, c'est pas trop mal fait, quoi. Et tu sens qu'il il est filmé comme un humain, donc régulièrement, il est là, il y a des interactions avec le décor, il est dans des scènes d'action, entre guillemets. Mais le scénario, c'est cheapos à souhait, même si t'as quand même le plaisir un peu régressif de, comme tu as dans Mario, cette espèce d'univers parallèle en caoutchouc, en carton, t'as des perspectives sur la ville, t'as vraiment, tu crées une réalité parallèle qui ressemble à un cartoon. Donc ça, je trouve que niveau technique, c'est un peu amusant, c'est dommage qu'ils essaient d'en faire un film avec une histoire, quoi, mais voilà, dans la catégorie what the fuck.
Et le gagnant de cette catégorie des années 90, ça reste Tammy et le T-Rex. Film que j'adore au premier degré. C'est génial de A à Z pour toutes les raisons du monde. Donc déjà, c'est réalisé par Stewart Raffield, qui est quand même le mec qui a fait Mac and Me. Tu sais, c'est ce remake de E.T. sponsorisé par McDonald's, donc ça pose un peu le truc.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Oh, je te conseille d'aller voir un peu ce que c'est, tu vas voir, c'est intéressant.
Boîte de Pandore.
Et donc en gros, c'est l'histoire de Denise Richards qui sort avec un bully. Et d'un autre côté...
Non, elle sort plus avec lui.
Elle sort plus avec lui, mais lui, il s'accroche à elle parce qu'il est méchant. Mais
clairement, c'est un psychopathe. Hein.
C'est totalement un psychopathe. Et en parallèle, il y a des scientifiques fous qui veulent transvaser les cerveaux des gens dans des animaux, en gros, quoi. Et le personnage de Paul Walker, premier rôle, je crois, d'ailleurs, à l'époque, si je dis pas de bêtises, qui est le jeune beau gosse ténébreux et qui s'élève contre le bully et qui du coup gagne le cœur de Denise Richards. Et suite à divers péripéties, le cerveau de Paul Walker se retrouve dans un animatronique de dinosaure.
Mais c'est ça, c'est un animatronique dans la fiction,
oui,
c'est ça.
Oui, c'est parce que c'est pas un vrai dinosaure.
C'est hyper méta, franchement.
Absolument. Et donc tu te demandes comment ce truc complètement ahurissant a pu exister. Et c'est ça qui est... Ce qui en fait une immense série B, c'est que ça vient de la façon dont il a été conçu. C'est-à-dire que c'est juste un gars qui possédait des cinémas en Amérique du Sud, qui appelle Stuart Treffin, donc le réalisateur, et qui lui dit « Ah, il y a le T-Rex !» Parce qu'il avait un T-Rex animatronique. Dans deux semaines, il devait débarquer, il devait le larguer dans une zone au Texas ou je sais pas quoi. Il a dit « Bah, on peut faire un film !» et le réal, il a fait « Mais vous avez une histoire ?» Et lui, il a répondu « Bah, pour sinon, pourquoi tu crois que je t'appelle, putain ?» Genre, il y a le fucking dans le... Peut-être qu'il a restitué dans une interview, donc c'est véridique story. Donc voilà, il avait pour deux semaines, il a écrit le script en un, et ils ont commencé à tourner quelques semaines après, et d'où l'hallucination totale qu'est ce film, qui du coup se prend absolument jamais au sérieux, parce qu'il s'assume comme une sorte de truc complètement spontané, qui s'est quasiment improvisé en une semaine, mais en même temps, c'est complètement... Il y a des images sidérantes, cette image du dinosaure qui téléphone, ou alors cette partie dans la grange où Denise Richard, elle embrasse plus ou moins le bestiau, enfin, c'est complètement dingue, c'est hyper marrant, et surtout, chose que pas tant que ça, j'en savais, le film est hyper gore, mais quand il est sorti aux États-Unis à l'époque, il s'est fait immédiatement censurer et ils l'ont retourné pour en faire essayer de le vendre comme une sorte de comédie familiale. Bon, voilà. Et en 2019, c'est l'éditeur Vinegar Syndrome qui est très connu pour faire souvent ce genre de choses, c'est-à-dire reprendre des vieux projets, enterrer, les restaurer et ressortir des versions qui se tiennent à peu près, qui donc l'a ressorti avec ses scènes gore. Et avec ce scène gore, ce film... Et je le dis vraiment, une comédie exceptionnelle, c'est hilarant, tu regardes ça un soir avec des amis et du popcorn, tu t'ennuies jamais, ça dure une heure et demie, ça s'arrête pas, il y a toujours un nouveau truc débile, les personnages sont tous plus allumés les uns que les autres, l'animatronique est mine de rien hyper fun, et en fait ils le mettent dans des situations tellement drôles que c'est même pas du gag du... c'est pas de l'humour parlé, c'est juste les situations sont beaucoup trop drôles pour pas éclater de rire à chaque seconde, et les effets gore, c'est du trauma quoi, donc c'est vraiment... Oh, c'est du caviar, j'adore.
Mais c'est vrai que contrairement à Carnosaur, je trouve que celui-là, il est généreux et c'est amusant. Tu t'ennuies pas parce qu'il se passe tout le temps plein de trucs et il y a peu de films. Tu vois, Théodore Rex, c'est chiant. Carnosaur, c'est chiant. Ouais. Super Mario Bros, c'est un peu amusant, mais c'est un peu chiant au bout d'un moment. Et je trouve que celui-là, t'as mis le T-Rex jusqu'au bout. Tu te dis, bah, ok, où est-ce que je vais? Il y a quelque chose d'un
puis
peu
c'est
magique.
C'est vraiment une anomalie dans tous les sens parce que du coup, ces deux personnages principaux sont des acteurs qui à l'époque n'étaient pas du tout connus et qui ont explosé quelques années plus tard tous les deux. Et c'est trop drôle. Enfin, même dans une interview, le réel, il dit, en parlant de Denise Richards, oh, she never was a good actress, but she was pretty. Genre, ils en avaient rien à foutre. Vraiment, de A à Z, ils en avaient rien à foutre.
Mais je trouve qu'elle joue le jeu à fond, c'est ça qui est fou.
En
c'est
fait,
que...
elle joue hyper premier degré, bah, c'est ce qui rend le film incroyable. Et finalement, il l'utilise presque de la même manière que Verhoeven l'utilisera plus tard dans Starship Troopers.
Non, c'est vraiment sa grande film décennie quoi, entre Tammy T-Rex et Starship Troopers.
Ouais, et après, Wild Things, où, c'est la trilogie du Denise Richards premier degré qui fait un truc complètement débile. Ouais. Voilà.
Énorme. Donc tout ça, ça s'est passé autour de Jurassic Park, donc on peut voir à quel point la décennie 90 a été folle. Évidemment, on arrive à Jurassic Park, alors que franchement, si un jour on devait faire un article, une vidéo, un podcast dessus, je sais pas ce qu'on pourrait dire, parce qu'il y a déjà eu des centaines de milliers de vidéos, d'analyses, de livres et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant là-dessus?
Peut-être qu'on pourrait juste revenir sur ce que le film représente pour nous, en fait. Peut-être juste...
Vas-y, parle-nous de ton enfance.
Alors, j'ouvre mon petit cœur. Non, mais c'est juste... Jurassic Park, c'est admis que c'est très souvent la porte d'entrée pour les films de dinosaures. Moi, ça a été Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles pour que bien je comprenne véritablement ce qu'étaient les dinosaures. Et ensuite, il y avait ce truc un peu jouissif de... Ah bah voilà, tous mes fantasmes, ils sont mis en scène dans un film. En tant que fan de dinosaures, bon, après, on m'explique clairement que mes fantasmes se retournent contre moi, mais... Mais il y avait vraiment cette évolution en fait du film de dinosaures, et là c'était vraiment genre arrivé à un stade de fantasme ultime où bon bah voilà, on a vu les dinosaures et maintenant ils sont là, ils sont dans notre monde, ils sont dans un parc, on les a recréés, et ça c'est, je trouve, ce qui était le plus fort et ce qui s'est depuis perdu et qu'on pourra très 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 difficilement retrouver.
Si vous avez les Blu-ray, je vous conseille les bonus qu'ils ont retourné quelques années après pour la, je crois que c'est pour la sortie Blu-ray, mais je suis pas sûr, qui s'appelle, je crois, Back to Jurassic Park. Et bon, c'est du making of promo, etc. Ouais. Mais ils abordent plein de points qui, je trouve, sont souvent pas assez abordés dans quand on aborde Jurassic Park, notamment le sound design, par exemple. Ils reprennent la scène donc du verre d'eau, etc. Et c'est vrai que le sound design de scène est absolument incroyable. Et du coup, t'apprends que, par exemple, les pas du T-Rex, c'est des bruits de séquoia qui s'abattent, tu sais, des trucs comme ça.
J'adore voir quand ils font les bruitages, une fois, genre la feuille d'aluminium pour faire le bruit des œufs dans la poêle. Genre, je trouve ça fascinant.
Ouais, non, mais du coup, ils te mettent un peu la composition des cris des différents dinosaures. T'apprends que le T-Rex, c'est un mélange entre un lion et un crocodile, mais l'élément clé, apparemment, ce serait un éléphanto. Voilà. Et t'as le côté un peu barrissement, tu sais, dans son cri. Le raptor, ce serait un dauphin. C'est
qu'en voyant les vieux films des années 50, Guangui et tous ces trucs, je me suis dit régulièrement, un million d'années avant Jésus-Christ, le son des dinosaures, en fait, c'est vraiment un son d'animal que t'arrives un peu à identifier. Tu sens que c'est un espèce de fauve, en gros. C'est un fauve dont ils ont essayé un peu de tordre le bruit. Et dans Jurassic Park, c'est vrai qu'ils ont réussi à imposer un bruit qui semble être complètement unique.
Au-delà de ça, t'as tous les petits bruits contextuels de l'arrivée du dinosaure avec les. Je trouve que c'est un truc, bon, on en reparlera, qui marche aussi très bien dans le King Kong de Jackson, la scène avec les T-Rex. Leur mâchoire qui claque, le son est super fort et ça fait vraiment, tu sais, parce que Naomi Watts, elle échappe de temps en temps
elle
échappe 67 fois de suite aux mâchoires qui claquent et le claquement de la mâchoire qui revient comme ça régulièrement. Et ouais, dans ces films là, enfin, j'ai l'impression que Jurassic Park a aussi créé une sorte de standard sur comment tu mets en son un dinosaure, et qui est assez impressionnant. Et bon, après, sur les effets spéciaux, je trouve personnellement que la révolution finalement numérique, voilà, on va pas revenir 2000 fois dessus. Spielberg qui voit un test de Denis Muren après les tests de Phil Tippett en stop-mo, qui fait « Ah bah, on va tester ça », et qui, voilà, révolutionne complètement la façon dont on fait des effets spéciaux. Je trouve que cette révolution-là est un peu trop mise en avant quand on parle de Jurassic Park. Bon, le film a tellement été discuté que rien que dire ça, c'est déjà enfoncer une porte ouverte. Mais je pense que c'est quand même bien de reparler de Stan Winston et du fait que le film est quand même fait en grande majeure partie d'animatronics complètement incroyable, vraiment. Tu regardes les making-of, c'est fou, il te crée des dinosaures en taille réelle qui répondent de façon incroyable. Et aussi que la technologie CGI, elle a toujours été supervisée par Phil Tippett, et que ça reste... une autre technologie appliquée avec une transition de ce que c'était la stop motion, parce qu'ils avaient un programme, c'était le D&D, je crois, pour Digital Input Device, qui était en gros une manière pour les animateurs de guider l'ordinateur à leurs animations de stop motion. Il y a vraiment une transition qui s'opère, et le CG, certes, ça a complètement tout révolutionné, qui commence à l'utiliser à partir de là, mais Jurassic Park, c'est une somme de techniques qui se mettent ensemble pour créer un genre de point de jonction du cinéma à grand spectacle, au point d'ailleurs qu'il y a la dans la cuisine, il y a quelques plans et surtout les versions préliminaires où les raptors en question, c'est des mecs dans des costumes.
Oui,
ils ont créé des costumes.
Tu vois les pattes, c'est vraiment un mec dans un costume, c'est génial.
Tout est là.
C'est vrai que ce que tu dis, le fait que ce soit très dévalué et qu'on reste beaucoup sur le numérique, en fait, tu le vois avec la production de Dinosaur, celui de 2000 de Disney, qui de base devait être fait par Verhoeven et Tippett. Avec des modèles animatroniques.
Surtout quand tu vois leur ambition, ce qu'ils voulaient faire.
Ouais, en fait, ils voulaient vraiment faire quelque chose de très sombre, un peu à la Fantasia, en fait, quelque chose de très naturaliste, sans dialogue, quelque chose de très violent, très brutal. Et bon, au final, c'est Disney, donc évidemment que c'est pas ce qui s'est fait. Mais il y avait aussi la volonté, du coup, de Disney de faire Dinosaur en numérique et certainement pas en stop motion avec les œuvres de Phil Tippett, parce qu'ils savaient que dans Jurassic Park, il y avait des scènes en numérique qui se préparaient. Et eux étaient en mode non, là on va faire un truc en numérique. En plus, il y a eu Toy Story. Qui est passé avant avec Pixar et tout ça, donc du coup ils se sont dit non, on va faire du numérique. C'était vraiment l'ambition, l'idée, c'était de faire du numérique comme si c'était
c'est d'autant plus dommage que quelques années auparavant Phil Tippett avait fait son court métrage avec son propre studio Prehistoric Beast, qui préfigure complètement son univers qu'il a dévoilé ensuite dans Mad God, et qui une vision du dinosaure unique. C'est 10 minutes, même moins que ça je crois, et c'est unique. Voilà.
Et c'est vrai que ce que tu disais sur un peu le transfert de compétences, le passage de savoir, Phil Tippett qui était crédité comme dinosaure supervisor, et en fait il était là pour accompagner les artistes de CG, pour vraiment, il prenait modèle sur tout ce qui existait, tout ce qui avait été créé par Winston, pour les refaire en numérique. Et il y a un truc que je trouve trop drôle, c'est un des mecs de l'équipe donc CGI de l'équipe numérique qui s'appelle Ty Ruben Ellingson, qui raconte que Phil Tippett, il voulait vraiment que tous les artistes qui créent des choses numériquement, il fallait qu'en fait, pour lui, il n'avait pas conscience de comment les choses bougeaient. Ils étaient vraiment un peu le prototype peut-être du geek qui était dans son ordinateur à l'époque, un peu le cliché. Et il les a incités à faire des cours de mime dans les locaux de la boîte pour qu'ils puissent se mettre en scène eux-mêmes entre eux, en rôle de prédateur, rôle de chassé, chasseur, pour qu'ils puissent apprendre les mouvements. Et il raconte qu'ils ont fait entre eux, avec des bouts de polystyrène et tout ça, la scène où Alan Grant et les gamins sont cachés derrière le tronc et que tous les dinosaures arrivent en courant et que du coup ils se protègent derrière le tronc. Quand ils ont fait ça, lui, ce mec-là, s'est explosé le coude. Il a fini aux urgences, il s'est vraiment explosé le coude. Et je crois que même encore aujourd'hui, il a un os en moins dans le bras. Et du coup, Phil Tippett a dit, si lui s'est cassé la gueule, il faut qu'un des dinosaures se casse la gueule. Et donc, quand tu regardes la scène, tu vois un des dinosaures, non pas qui tombe, mais qui trébuche un peu et qui, pour le coup, ne se fait pas mal parce qu'il rebondit et repart aussitôt.
C'est tellement Tippett, ce truc de la créature qui se pète à moitié la gueule et qui la rend beaucoup plus vivante. Dans les Robocop, je trouve que t'as ça avec le robot Ed 2000.
Oui. Robot, qui est confronté à la réalité du décor.
Il trébuche ou il tombe sur des marches et vraiment, ça lui donne un côté palpable. C'est impressionnant.
Bah d'ailleurs, c'est tout ce qui marche dans ce Jurassic, c'est qu'à chaque fois que tu regardes l'interaction entre le faux dinosaure CG et le décor, à chaque fois, t'as un élément du vrai décor qui bouge, t'as une interaction, ce qui est devenu la base aujourd'hui. Et tu disais même à l'époque où il y avait des rétro-projections derrière, il fallait qu'il y ait un élément dans King Kong pour faire un peu le lien. Mais là, tu vois à quel point c'est malin parce qu'il y a un truc qui est balancé dans le décor. Du coup, le T-Rex lance un raptor, donc le squelette s'éclate. T'as des trucs qui bouge, là, il met sa patte sur la Jeep, comme ça tu vois vraiment l'interaction, ton regard est sur la Jeep et sur les gens en dessous, donc régulièrement ton regard est vraiment dirigé par de la mise en scène, en fait, tout simplement.
Grand film de mise en scène.
Et la boîte ILM, Industry Light and Magic, donc celle de George Lucas qui maintenant fait tout et qui était déjà énorme à l'époque et qui est en train de découvrir, de créer des nouveaux outils, des trucs révolutionnaires, raconte qu'en fait il y a plein de choses qui se faisaient au fur et à mesure, des tests qui se faisaient en parallèle, des réflexions. Donc en fait c'est marrant, tu as l'impression que le film a été un peu conçu comme un truc révolutionnaire, ils avaient conscience des choses et en fait plein de tests se faisaient au fur et à mesure. Les artistes racontent que au début on les engageait pour faire des arrière-plans, que les arrière-plans sont devenus des premiers plans et après c'est devenu des gros plans. Donc en fait le truc était censé être un peu, vas-y, on va tester du bout des doigts cette technique, on sait pas trop ce que ça va faire, est devenu, en fait, cette technique est tellement ouf, on va articuler la mise en scène de certaines images, certains moments, autour de votre travail. Du coup, pour eux, c'était genre hallucinant de se dire, ils savaient pas dans quoi ils s'embarquaient, et ils ont dû voir sous leurs yeux s'écrire l'histoire de, waouh, c'est ce qu'on est en train de faire.
Des interviews de Denis Muren où il raconte dans les making-of que lui savait pas du tout vraiment, enfin, quand Spielberg a choisi d'aller sur cette voie-là, il voyait le truc prendre de plus en plus d'importance, et se disait, putain, mais si ça marche pas, je suis dans la merde un peu, tu vois. Et la façon dont il en parle, tu sens que c'est vécu, quoi. Tu sens qu'il a vraiment eu ce genre de peur de est-ce qu'on n'est pas en train de complètement couler le truc. Bon, et finalement, ça fonctionne parce que, pour avoir revu mon visionnage bimensuel, la scène où je pense que pour moi, le plan le plus spectaculaire, c'est sous la pluie, la scène où le Ian Malcolm il sort son flair. Scène qu'il a d'ailleurs eu l'idée lui-même. Enfin, c'est Goldblum qui, pendant les répétitions du texte, a dit à Spielberg, ce serait pas cool si mon personnage ferait un truc héroïque plutôt d'être un gros con tout le temps. Spielberg a dit cool, et du coup c'est lui qui court avec le flair, et en fait la façon dont Spielberg fait la profondeur avec le T-Rex qui se rapproche de lui, et tu peux le voir enfin en grand, alors qu'avant t'avais que des petits bouts d'animatronique. C'est comme ça qu'il faut utiliser les CGI, quoi. C'est la première fois qu'on le voit en grand, et du coup c'est hyper spectaculaire. Enfin, vraiment, tu vois toute la puissance du truc devant toi. Et putain, les frissons, quoi. Vraiment,
c'est... Bah, de toute façon, toute cette scène autour des Jeeps, là, elle est géniale, quoi. Le fait qu'ils viennent péter, essayer de les choper avec la vitre et qu'ils la tiennent du bout des bras, c'est vraiment...
c'était pas prévu.
C'est... De quoi, qu'il n'y a pas prévu?
Bah, le fait que la vitre tombe, c'était pas prévu.
Ah bon?
Oui, normalement, le dinosaure était juste censé faire des gros cris au-dessus, sauf que, en fait, avec le poids de l'animatronique, ça a fait tomber la vitre. Et du coup, les deux gamins qui étaient sous la vitre, ils avaient genre vraiment peur. Ou peut-être qu'ils en ont rajouté parce qu'ils avaient conscience du truc, mais c'était pas forcément prévu, alors que ça reste une... Enfin, moi je sais que les voir là comme ça sous le pare-brise avec le dino au-dessus, la voiture retournée,
oui,
et tout, c'est une vision d'enfer.
En plus tu vois un morceau de la vitre cassée, du coup tu dis mais la chance qu'elle soit pas plus cassée, la vitre, quoi.
Oui, clairement dans cette scène il devait juste passer en Jeep sous la pluie, en fait, et rien ne s'est passé comme prévu. Non mais c'est sous l'animatronique, ouais, parce qu'en plus Spielberg a eu pas la dernière minute, mais a eu l'idée après qu'ils aient fait l'animatronique de faire la scène sous la pluie pour les qui ça fonctionne incroyablement bien.
Et c'est ça qui est génial.
À l'écran, oui, mais sinon
Stan Winston il lui a dit mais en fait nous on n'a pas créé notre méga animatronique énorme super cher pour qu'il aille sous la flotte. Et du coup sur les images de making of, c'est fascinant, tu vois le l'animatronique qui tremble parce que la pluie le rend plus lourd, et du coup ils sont au-dessus du poids maximal de la carcasse, et du coup la machine elle galère, et du coup le l'animatronique tremble à fond, et donc tu as ces images où tu as tous les techniciens qui sont en train d'essayer d'éponger le dinosaure pour qu'il arrête de trembler.
Ah, c'est génial. Et moi les scènes que j'adore aussi, c'est quand vers la toute fin, avant le climax avec le T-Rex qui revient, c'est quand les raptors les pourchassent à travers, en fait, le côté huis clos avec dinosaures qui est jeu de chat et la souris. Je trouve ça génial, que ce soit les cuisines avec vraiment se cacher dans le four, le refléter, c'est plein de petits trucs qui sont extrêmement malins. Et quand ils passent dans les conduits d'aération, C'est génial, c'est vraiment le film d'horreur parfait. Tu dis, à un moment, il va passer sa gueule, il va passer sa gueule, il va passer sa gueule. Bah ça y est, il a passé sa gueule.
Tu vois, Mathieu, juste avant que tu parlais du sound design, moi, c'était vraiment le bruit que fait la griffe du raptor, genre quand elle s'abat sur le sol. Je sais pas pourquoi, c'est tout con comme bruit, mais avec le gros plan, le fait qu'il y ait le petit rebond et tout, je sais pas pourquoi, c'est vraiment des trucs qui m'ont marqué. Et ce bruit de griffe sur
franchement, revoir le film en faisant attention au sound design, c'est une expérience. Je pense qu'il faut le faire parce que c'est. Ça fonctionne vraiment beaucoup grâce à ça.
Et un autre truc qui me fait rire aussi, c'est que l'équipe a beaucoup expérimenté sur La mort vous va si bien, le film réalisé par Robert Zemeckis. Ça a beaucoup servi sur Jurassic Park. Et comme j'adore La mort vous va si bien, il fallait absolument que je le casse parce que je trouve que La mort vous va si bien, c'est un chef-d'œuvre de comédie. Je trouve ça génial. Et les effets étaient effectivement assez révolutionnaires et dingues à l'époque, notamment quand Meryl Streep se tord le cou et qu'il y a tout un tas d'interactions avec le décor et tout. Vraiment, c'est la mise en scène de Zemeckis est virtuose. Et il a fait en sorte que les effets spéciaux soient vraiment poussés un maximum pour que sa mise en scène soit pas figée, et ça me fait trop rire qu'il y ait un lien entre les deux. Bon, Zemeckis et Spielberg, évidemment, on se connaissent très bien, mais de se dire qu'il y a un petit lien entre La mort vous va si bien et Meryl Streep et Jurassic Park, ça me fait plaisir. Quels autres trucs? Tiens, l'autre jour, j'ai lu, je ne sais pas, j'ai pas calculé moi-même, mais qu'en gros, t'as 14 minutes de dinosaures à l'écran et 5-6 minutes en VFX, et le reste, c'était réel.
Ouais, c'est pas étonnant, ouais.
Ça semble à peu près ok. Cette réunion s'est éternisée, évidemment, hein, j'aurais dû m'en douter dès qu'on parle de dinosaures. On a un peu traversé un siècle de dinosaures depuis Gertie 1914 jusqu'à Jurassic Park en 94 et on arrive à la fin des années 90 avant Dinosaures de Disney. Donc je vous propose de vous taire et qu'on reprenne la semaine prochaine parce que cette réunion a duré beaucoup trop longtemps et beaucoup plus que prévu. Moi je crois que j'ai besoin en plus de revoir les suites de Jurassic Park parce que je suis à deux doigts de me dire que Jurassic Park 3 en fait c'est mieux que ce que je pensais parce que vous avez l'air de me dire que c'est trop cool.
Absolument.
Ok, donc pourquoi pas le revoir. Peut-être pas revoir Jurassic World 3, parce que faut pas abuser, je me souviens très bien que c'est de la merde. Et d'ailleurs, je me disais que vraiment, j'ai hâte qu'on lance un podcast, parce que, bon, je sais qu'on en parle depuis très longtemps de faire un podcast, depuis 1000 ans, mais imaginez un podcast sur les meilleurs films de dinosaures.
Ouais, franchement, ça pourrait être sympa comme sujet.
Ce serait un peu long, mais très bonne idée.
Il faudrait faire plus court que ça. Donc j'ai un peu hâte de faire le podcast, et en même temps, j'ai pas hâte, parce qu'à chaque fois que j'écoute un podcast, j'entends qu'à la fin, les gens, ils doivent dire abonnez-vous, mettez des cœurs, des étoiles, des bonnes notes et tout, et j'ai l'impression que c'est obligatoire, et en même temps, j'ai l'impression que ça fait chier tout le monde.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.